mais vous avez plein de bonnes raisons de fumer. Ça vous apporte plein de choses. Non, mais c'est vrai en plus.
Bah, oui, bien sûr, mais oui.
Ça leur permet peut-être de gérer leurs émotions, même si, en tout cas, même si c'est psychologique, ça leur permet de marquer le temps de pause dans la journée, ça stimule la digestion, c'est un super moment convivial entre amis, une super manière de gérer leurs émotions, etc. Donc il y a plein de super avantages à fumer. Et après, il y a plein de super inconvénients à fumer, ils le savent aussi. Je n'ai pas besoin de le rappeler, mais des maladies, enfin bref, on le sait tous. Et je leur dis, mais maintenant, il y a plein d'avantages et plein d'inconvénients. Si tous ces inconvénients du tabac sur la santé, les risques de cancer, de maladie, sur le porte-monnaie, on appelait ça le prix à payer. Je leur invite juste à se poser cette question. Quel prix vous êtes prêt à payer pour avoir tous les effets positifs extraordinaires que la cigarette peut vous apporter? Mais juste à ce moment-là, faire un choix. Parce que moi, je ne suis pas là pour leur dire c'est bien ou c'est pas bien de fumer. Ils font ce qu'ils veulent, quelque part. Mais c'est juste faire un choix.
Bienvenue sur
Des Tocs et des Clopes,
le podcast qui parle de sevrage tabagique
sans préjugés
et sans pression. À chaque épisode, un nouvel invité.
Addictologue,
psychologue,
infirmière,
sage-femme,
hypnothérapeute,
psychiatre,
pour vous aider à vous détacher
de vos tocs
et vos clopes. On n'est pas là pour vous faire la morale ni pour vous répéter une énième fois pourquoi il faut arrêter de fumer.
On est là pour vous partager notre expérience en tant que professionnel et vous donner accès à des témoignages de fumeurs et d'anciens fumeurs.
Je suis moi-même ancien fumeur, j'ai fumé pendant 10 ans et j'ai arrêté depuis 4 ans.
Je suis médecin généraliste à Lyon et j'accompagne tous les jours des patients au sevrage tabagique. Simo est le premier que j'ai aidé à arrêter de fumer.
Et grâce à Amandine, je suis débarrassé de la clope depuis 4 ans et j'espère à vie.
J'espère bien. Nous sommes Simo et Amandine et nous vous proposons cette série de podcasts intitulée « Des tocs et des clopes » pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur, le sevrage tabagique. Nous voudrions, au cours des différents épisodes, explorer toutes ces facettes.
L'idée est venue de notre expérience personnelle, et l'objectif n'est pas de vous dire d'arrêter de fumer tout de suite, mais simplement vous aider à déconstruire certaines idées reçues grâce aux éclairages de professionnels de santé et autres invités que nous accueillerons tout au long de la série.
La nouveauté dans ce podcast, c'est l'interactivité. Nous mettons à votre disposition un outil qui vous permet en un clic de nous envoyer des messages audio. Vous pouvez partager avec les autres auditeurs vos questions, remarques, opinions et témoignages qui pourront éventuellement être soumis aux invités et diffusés dans les prochains épisodes.
C'est bon, on a chopé le mic ?
Ouais.
Allez, c'est parti.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce second épisode du podcast
Des Tocs et des Clopes,
dans lequel nous avons commencé à aborder le vaste sujet du
sevrage tabagique.
Du coup, dans le premier épisode, on a reçu Ida, qui était infirmière et qui assure des consultations d'aide au sevrage tabagique. Donc on vous invite forcément à aller écouter ce premier épisode qui était génial.
Nous avons parcouru plusieurs sujets, dont justement l'addiction physique et l'addiction psychologique.
Ouais, elle nous a aidé, enfin, on a discuté de la distinction entre les deux.
Elle nous a présenté quelques outils justement pour pouvoir s'auto-évaluer, donc ils seront présents dans le descriptif du premier épisode.
Qui s'appelle
Prochesca, le cycle de Prochesca et Birkenstock.
Et voilà, les Birkenstock selon Simo, donc ce sont des chaussures. Voilà, donc en réalité c'est le Fagerstrom, mais bon, c'est pas grave.
Fagerstrom, voilà.
Voilà.
C'est assez proche.
Voilà, ça se ressent tout à fait. Donc on parle pas de chaussures, on va bien parler du Fagerstrom et du Horn. Et du coup, dans ce deuxième épisode, on reçoit Sébastien qui est hypnothérapeute. Et avec qui on va surtout parler du coup d'addiction psychologique.
Allez, c'est parti.
Bonjour.
Est-ce que tu pouvais vous présenter?
Du coup, je suis thérapeute depuis une dizaine d'années, hypnothérapeute. Je travaille avec plein d'approches, pas que l'hypnose. Et puis bah, voilà, et puis, j'accompagne pas mal de fumeurs du coup.
J'imagine. Et nous, c'est la raison pour laquelle on t'a invité dans ce podcast. Parce que la semaine dernière, avec donc Ida, qui était la première invitée de cette série de podcasts sur le sevrage tabagique, on a pu discuter notamment de la distinction entre l'addiction physique et l'addiction psychique.
Ouais.
Et du coup, donc aujourd'hui, on va parler plutôt d'addiction psychique, justement.
C'est psychique ou psychologique, du coup ?
Alors, du coup, c'est la même chose.
Je pense que c'est la même chose. Ouais.
Okay. Alors du coup, toi, tu as un parcours un petit peu particulier, je crois.
Comment j'en suis venu à thérapeute, c'est ça ?
Exactement.
Ouais, alors moi, c'est vrai que ça n'a pas été mon premier métier. Moi, j'ai fait beaucoup de sport. J'étais au début sportif un peu de haut niveau. J'ai fait beaucoup de handball. Et puis après, je suis rentré chez les pompiers de Paris pendant 5 ans.
Ah ouais ?
Ouais, et puis après, je me suis retourné un petit peu vers l'hypnose, vers la thérapie et toutes ces approches-là, quoi.
Ok. Donc, et voilà. T'exerces depuis combien de temps ?
Et j'exerce depuis maintenant 2013, donc ça fait 8 ans, 9 ans.
Tu m'en manques quand même.
Ouais, t'as joué à quel niveau du coup, handball ?
Jusqu'en N1, j'ai joué. Ok. National 1, voilà. C'est la 3ème division.
Bah, c'est très très bien.
Ouais,
et t'as joué longtemps du coup ?
Ouais, bah, j'ai dû commencer à 7 ans, et puis j'ai arrêté à 32, 33. J'ai eu des petites pauses au milieu. Mais...
Ah, ah ouais, d'accord.
Voilà. Donc ouais, j'ai pas mal joué, j'étais en sport études à Lyon, j'ai fait pas mal de trucs.
Ah, c'est top.
Ouais, carrément.
Ah bah c'est cool comme reconversion après une carrière sportive. Du coup, ouais. L'idée, du coup, t'es venu après le sport ou après le passage chez les pompiers de Paris ?
Alors moi, je suis venu après le passage chez les pompiers de Paris. Enfin, le sport, j'ai jamais été professionnel, hein. C'était du semi-pro. Donc
il n'y avait pas d'encadrement, du coup ?
Non, il n'y avait pas d'encadrement, il y a des aides, mais après, quand je suis rentré chez les pompiers de Paris, en fait, j'ai arrêté pendant 5 ans, parce que je restais 5 ans. Donc là, de toute façon, c'est pas possible d'allier le sport de haut niveau et les pompiers de Paris. Et puis après, en arrêtant les pompiers, je suis parti à Montréal pendant quelques années, c'est là où j'ai découvert l'hypnose. Et puis en revenant de Montréal, c'est là où j'ai repris le sport à haut niveau, sur de la N2, de la N1.
Pourquoi c'est plus développé à Montréal qu'en France
Oui, à l'époque, c'était plus développé à Montréal qu'en France. À la base, je ne suis pas parti juste pour ça, en fait. Ouais. Ouais, c'est que j'ai fini mon contrat de 5 ans chez les pompiers. Et puis, j'en avais un petit peu marre. J'avais envie de voyager, d'en profiter. J'avais 26 ans, 25 ans. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais partir à Montréal. Ça me donnait une idée un petit peu de ce que j'ai envie de faire après. Et donc, c'est par la suite que j'ai cette idée là, de faire l'hypnose à Montréal, quoi.
Okay.
Et donc en plus ça tombait bien parce que c'était plus développé là-bas, donc j'ai fait des écoles là-bas et puis après je me suis reformé en France et sur plein d'autres approches, quoi.
Ok.
Donc voilà.
Okay. Et du coup tu dis OVNI hypnopraticien ou hypnothérapeute ?
Alors il y a
un grand débat là-dessus a priori.
Ouais, c'est ça, il y a un grand débat. Hypnothérapeute, il y en a qui disent qu'il ne faut pas le dire parce qu'on n'est pas des médecins, etc. Après, il n'y a pas de terme qui est réglementé officiellement. On peut se dire hypnothérapeute. Donc moi, je dis hypnothérapeute. Après, ça me dérange pas de dire hypnopraticien.
Ouais. Mais toi, tu conçois vraiment ton métier comme une thérapie.
Ouais, de la thérapie brève. Ouais. Alors moi, je ne fais pas que de l'hypnose maintenant. En fait, je forme aussi à plein d'autres approches. Puis j'en utilise deux particulièrement dans ce que je fais. Je fais de l'hypnose. Et puis je fais aussi l'approche de Palo Alto. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu.
L'approche
systémique et stratégique. C'est plutôt une approche qui est comportementale. C'est-à-dire qu'on part du principe, en gros, que quand on a un problème, forcément, on va essayer de mettre plein de choses en place pour essayer de résoudre son problème, sur notre vision du monde, sur nos croyances, sur différentes expériences de vie qu'on a pu avoir. Et puis, bien généralement, si on m'appelle, c'est que ça n'a pas vraiment fonctionné jusque-là. Et quelquefois, en fait, on s'enferme dans des cercles vicieux. Et plus on s'acharne à essayer de résoudre notre problème de la même manière, plus notre problème ne fait que s'amplifier. Et donc, l'idée de cette approche, c'est de nous amener à comprendre dans quel cercle vicieux les gens ont pu s'enfermer. Qu'est-ce qui fait que tout ce que les gens font, ça ne fonctionne pas ? Et surtout, on va les amener par des tâches, par des exercices à faire, à sortir de ces cercles vicieux. Et donc, voilà, c'est hyper complémentaire avec l'hypnose. Et pour moi, c'est vraiment hyper stratégique. Ça aide, ça a vraiment changé ma manière de travailler, en tout cas.
Et tu dirais que ça se rapproche un peu de la TCC que pratiquent les psychologues cliniciens ?
Ouais, tout à fait. Ça peut se rapprocher des TCC. C'est un peu différent des TCC, mais ça se rapproche dans l'idée, en tout cas. Ça peut se rapprocher quelque part des TCC, ouais.
Ok. Et du coup, quand un patient vient... Alors, tu dis patient, tu dis client
d'ailleurs. Alors moi, je dis client, parce que je ne suis pas médecin.
Okay.
Et on m'a toujours dit dans mes formations qu'il fallait dire client si c'était pas, si on n'était pas...
Je pense que pendant tout le podcast, je vais continuer à dire patient, parce que pour moi, le terme est encore... Ok. Et du coup, pendant une séance avec un patient, tu vas alterner entre les deux méthodes, toi, ou vous convenez d'un mode de fonctionnement ? Comment ça se déroule un peu ?
Moi, je vais te donner le cadre, en fait. J'explique déjà comment je travaille, parce que c'est vrai que sur mon site, c'est marqué cabinet d'hypnose, donc les gens peuvent s'attendre à ce que je fasse que de l'hypnose. Après, j'explique bien dans mon site que je travaille avec plusieurs approches.
Okay.
Mais j'explique le cadre. Je dis qu'en gros, je travaille avec deux approches. Une approche avec l'hypnose, qui est plutôt à un niveau inconscient, et puis avec l'approche systémique et stratégique, qui est plutôt à un niveau conscient et comportemental. Et donc, je leur dis qu'en fonction, on fera soit de l'hypnose, soit cette approche systémique et stratégique, soit quelquefois, on va mélanger les deux. Et en fonction de ce qui se passe, je vais faire soit l'un, soit l'une, soit l'autre, soit mélanger, etc. Donc souvent, en fait, cette approche systémique et stratégique, ça nous aide à avoir une stratégie, en fait, de changement.
On peut avoir des exemples de... Un exemple concret, en fait.
De techniques qu'on peut mettre en place. En fait, l'idée, c'est surtout de questionner la personne. C'est d'être un peu un enquêteur qui va savoir ce qu'elle fait pour résoudre son problème. L'idée, c'est que cette approche, c'est de partir du principe que le problème, c'est la solution. C'est un peu une grande phrase d'un des pères fondateurs du Slavic. Et en fait, c'est ça. Donc, nous, on va essayer de comprendre tout ce que la personne a mis en place pour essayer d'aller mieux. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut avoir des peurs et des angoisses. Souvent, le premier réflexe qu'ils ont, si on les questionne, c'est qu'ils vont avoir des pensées, avoir des émotions, avoir des symptômes qui peuvent lier à ça. Ouais. Et donc, ils vont essayer de mettre plein de choses en place pour essayer de résoudre tout ça. Par exemple, les pensées, ils vont essayer de se rassurer, ils vont essayer de penser à autre chose, ils vont essayer de faire, j'en sais rien, d'avoir des pensées positives, etc. Et donc, en général, bah, quelquefois, sur certaines personnes, ça fonctionne très bien, mais s'ils viennent me voir, en général, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc, moi, j'essaie de comprendre ce qu'ils ont essayé de mettre en place. Après, il y en a qui vont essayer, pour gérer leurs émotions, il y en a qui vont prendre des médicaments, il y en a qui vont prendre du thé, des homéopathies, qui vont faire du yoga, la méditation, etc. Donc, on essaie un peu de questionner pour savoir tout ce qu'ils essaient de mettre en place, tout ce qui n'a pas vraiment fonctionné jusque-là. Et puis après aussi, pour gérer les symptômes, il y en a qui vont commencer à éviter certaines situations, qui vont commencer à demander de l'aide à des amis, etc., pour faire à leur place. Et du coup, on part du principe que tout ce qu'ils ont mis en place, ça n'a pas marché jusque-là. Ce qui est vrai, parce qu'ils viennent nous voir. Ou ça peut fonctionner sur un moment précis, mais sur du long terme, en fait, le problème continue de s'alimenter, voire même de s'amplifier. Et donc, tout le but de notre travail, c'est de les amener à prendre conscience que ce qu'ils font, ça ne marche pas. Surtout peut-être même que ça fait qu'amplifier le problème. Et quelquefois même, ça les dirige tout droit vers ce qu'ils redoutent le plus. Mmh. C'est-à-dire, ça peut être, j'en sais rien, quelqu'un qui a des peurs, qui a peur d'être jugé. Le fait de ne pas oser dire, de se retenir, d'être timide, bah forcément, quelque part, il se dirige vers le fait que les gens vont le trouver peut-être un peu bizarre, un peu étrange, etc. Mmh. Mmh. Et donc, tout le but de cette approche, les amener par des exercices et par des tâches, à les amener à sortir de ce cercle vicieux, les amener à arrêter de faire ce qu'ils font, prendre conscience que ce qu'ils font, ça fait qu'amplifier le problème. Et donc amener ce qu'on va appeler des expériences émotionnelles correctrices, c'est qu'en le vivant, en fait, ils vont se rendre compte, ils vont prendre conscience que pouf, leur peur va disparaître. Parce que par exemple, une peur, finalement, pour moi, la seule et unique façon de se débarrasser d'une peur, quelque part, c'est de l'affronter. Mmh. C'est de prendre le risque que notre problème puisse arriver. Parce que c'est vrai, ça peut arriver. Mmh. Pour moi, il n'y a pas vraiment de peur irrationnelle. Toutes les peurs peuvent arriver, même s'il y a très peu de chances que ça arrive. Mais ça peut arriver. Et donc, l'idée, c'est de les amener à prendre le risque que ça puisse arriver pour pouvoir se débarrasser d'une peur.
C'est comme dans Lancard, il dit « Le pire qui puisse vous arriver, c'est d'arrêter de fumer, quoi.
» Exactement.
Voilà. On a un peu dérivé du sujet, mais...
et parce que du coup, c'est marrant, Ida, la semaine dernière, donc, qui était infirmière à Zalé, elle disait la même chose, en fait, dans ses consultations. Elle part vraiment de ce que disent les patients. En gros, ce qu'elle nous expliquait, c'est qu'elle va vraiment interroger le patient sur son rapport à la cigarette, sur comment il fume, sur pourquoi il fume, sur ses peurs aussi. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle ait dit le mot peur en tant que soi, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup quand nous, on en discute entre nous avec Simo, justement de quoi tu as peur, en fait. Pourquoi est-ce que tu vas aller fumer, etc. Et en fait, c'est quelque chose... Elle fait la même chose, en fait. Elle s'appuie vraiment sur ce que les patients rapportent initialement, en mode un peu enquête. De comprendre le comportement et vraiment d'adapter à chaque patient la thérapie qu'elle propose, en fait.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que chaque fumeur, je crois, ne fume pas pour les mêmes raisons. Et puis, il y en a qui se créent toute une identité par rapport à la cigarette. Et finalement, arrêter de fumer, c'est de perdre une petite partie d'eux et de se dire mais qui je vais être ou comment je vais être sans cette cigarette. Du coup, pour certaines personnes, c'est pas facile. Il y en a, c'est lié à plein d'autres choses. Donc, c'est ce qui fait que pour certaines personnes, c'est plus facile et pour d'autres, plus compliqué, quoi.
Ouais, surtout ceux qui ont commencé très jeunes, souvent ils sont vraiment construits avec la cigarette, et puis quand ça s'est pérennisé pendant des décennies, après c'est devenu, alors certes il y a le côté habitude, mais il y a le côté que vraiment ça fait partie d'eux, en fait c'est presque leur identité, quoi. La façon dont ils ont appris à fonctionner.
Moi en tout cas, j'ai pas forcément remarqué ça, c'est-à-dire que je me rends pas compte que si les gens, ça fait très longtemps qu'ils fument, pour moi c'est pas forcément plus dur pour arrêter de fumer. Ou c'est pas parce que les gens fument depuis 1 ou 2 ans que ça va être plus facile pour arrêter de fumer.
Après, ce qu'elle disait, c'est... Enfin, moi, je le comprends bien sur le rapport à la cigarette. Ouais. En fait, moi, c'était vraiment... mon rapport, c'était un moment privilégié que je passais avec moi-même plusieurs fois dans la journée.
Ouais.
Et ça, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je l'ai perdu. Il y a beaucoup de choses, justement, qu'on perd. Le côté social aussi.
Ouais.
Et effectivement, la pause cigarette pour réguler le flux de pensée à certains moments de la journée, c'est vraiment un moment personnel, on va dire.
Ouais, tout à fait, ouais.
Mais effectivement, je te rejoins, c'est pas une question de combien de temps on a fumé. Il y a différents profils de fumeurs. Limite, moi, je trouvais que c'était plus simple pour moi parce que je fumais beaucoup. Et je sentais que c'était un gros problème, donc c'était l'envie d'arrêter est venue de là. Alors que des personnes qui fument 3-4 cigarettes par jour, bah, elles n'auront peut-être pas les mêmes envies d'arrêter, elles n'auront pas les mêmes symptômes qu'on a quand on fume un paquet par jour pendant 10 ans. Quoi.
Et bah exactement, je pense. C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas parce qu'on ne fume pas beaucoup que c'est plus facile d'arrêter, ou que ce n'est pas parce qu'on est un gros fumeur que c'est plus difficile d'arrêter. Oui,
tout à fait. Ouais.
Ouais, je suis bien d'accord.
Et ça, c'est une idée, un préjugé qui circule énormément chez les patients.
Ouais, pas mal. Hein.
Et du coup, notamment le fait qu'il y ait beaucoup disent... moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent « Oui, oui, je vais essayer de diminuer. » Je leur dis « Mais ça ne sert à rien de diminuer. Je ne veux pas que vous diminuiez. » Non, tu travailles comme ça, toi ? Enfin, moi, je dis beaucoup que diminuer, en fait, ça va créer
moi,
la
à chaque fois que je diminuais, c'est que je m'imposais tellement de limites pour diminuer et je me mettais un cadre et je pouvais tenir une semaine, deux semaines, trois semaines. Ouais. Mais le jour où j'arrêtais, où je me laissais aller, bah, ça repartait de pire. Quoi. Ouais. J'avais l'impression que je m'étais tellement forcé frustré que ça dégageait encore plus d'envie de fumer derrière. En fait.
Bah, ouais, complètement. Ouais. Non, moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que j'amène... je suis plutôt dans le truc à dire à mes clients d'arrêter de fumer complètement, pas de diminuer, ça va être encore plus dur d'après moi. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de pire que de minimiser une émotion. Plus on va se battre contre une envie, plus elle va augmenter exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on part dans l'idée d'avoir, c'est ce que je dis à mes clients, de le faire parce qu'on a envie de le faire, pas parce qu'on se sent un peu obligé ou qu'on se dit que ça serait mieux. Ouais. Pour moi, l'intention est différente et ce qui va faire vraiment la différence dans le fait d'arrêter de fumer. Quoi. Ouais.
Et justement, comment ils viennent, du coup, les gens te voir ? Est-ce que ils viennent, tu dis, parce qu'ils ont essayé plein de choses et que ça n'a pas marché ? C'est souvent... Alors, par exemple, Ida, qu'on a reçue la semaine dernière, justement, elle, c'est forcément du deuxième recours. En fait, c'est les médecins généralistes qui vont lui adresser des patients pour un sevrage cardiaque.
Elle fait partie d'un réseau, Azalé, je ne sais pas si tu connais, du coup.
Alors, je ne connaissais pas, non, mais on avait parlé un petit peu, tu m'expliquais. Ouais.
Exactement, ouais. Et du coup, en fait, c'est un deuxième recours. Moi, je suis pareil que toi, j'imagine, en premier recours, mais est-ce que, du coup, comment ils arrivent, les patients, les clients ?
Ouais. non, bah écoute, moi, ils arrivent soit... part du bouche-à-oreille, parce que dès que c'est vrai qu'il y a une deux personnes qui viennent me voir et puis qui arrêtent de fumer assez rapidement, une, deux, trois...
Ah, ça arrive.
Ouais, ça arrive. Bah, j'espère, sinon on le ferait plus.
Non, je veux dire en une ou deux ou trois séances, si c'est rapide.
Clairement, ouais. Je pense à peu près cette moyenne, ça peut être... moi, j'aime bien dire deux séances. Après, quelquefois, il y en a qui ont besoin d'un peu plus. Quelquefois, en une, il y en a qui viennent me voir qu'une fois et puis ils ne reviennent plus derrière et c'est OK. Donc voilà, mais du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je sais plus.
Oui, comment arrive la patiente vers toi ? Oui,
non, en gros, ils viennent soit par du bouche-à-oreille, parce qu'il y a un de leurs collègues, un de leurs amis qui a arrêté de fumer en venant me voir, et du coup, ils viennent me voir parce qu'ils ont entendu que ça marchait, ils ont vu que ça marchait, ils ont vu les changements chez leurs amis. Il y a quelques médecins qui me renvoient du monde aussi maintenant. Pareil, quand ils ont... j'ai des médecins qui sont venus me voir, du coup, qui ont arrêté de fumer, du coup, qui m'ont renvoyé du monde derrière. Donc ça, c'était chouette. Et après, Internet, parce que l'hypnose, c'est vrai que maintenant, ça a un peu le vent en poupe. C'est connu pour ça aussi, pour être une bonne aide pour l'arrêt du tabac. Et du coup, voilà.
Et c'est quelle part de ta patientèle, du coup, les gens qui viennent justement pour ça ?
Je sais pas, je réfléchissais à ça. En fait, ça marche un peu par période, j'ai l'impression. De temps en temps, j'ai plus de gens qui viennent sur des périodes où je vais avoir, j'en sais rien, je pourrais dire un quart de ma patientèle qui vient peut-être pour ça de temps en temps.
Ah oui.
Puis de temps en temps, j'en ai un peu plus, de temps en temps, j'en ai un peu moins, j'en ai pratiquement pas. Ça dépend un peu vraiment des périodes. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Ouais, je sais pas.
Il y a des saisons où les gens décident d'arrêter de fumer. Non,
c'est les bronchites hivernales, ça calme.
Bah, non, mais, ça... mais par exemple, des saisons, moi je vois au mois de février, j'ai beaucoup plus de clients qui viennent.
Résolution de nouvelle année.
Ouais, je sais pas. Puis fin de l'hiver, peut-être. Les gens sont fatigués, ils sont pas bien. Prendre plus de temps pour eux. Je sais pas pourquoi, mais c'est souvent la même chose. Puis il y a des périodes où il y a moins de gens, il y a plus d'annulations. Ça. C'est comme ça, faut savoir.
Et du coup, le reste de ta clientèle, vais y arriver. Du coup, tu disais les peurs, l'anxiété.
Ouais, on a pas mal sur les angoisses, le stress, l'anxiété, tout ce qui est comportement alimentaire.
Ah ouais.
Ça, on a pas mal là-dessus.
Okay. Donc, que ce soit la boulimie, l'anorexie.
Ouais. Là-dessus. On a quoi d'autre qu'on fait assez régulièrement, comme ça. Il y a tout ce qui est douleur aussi, gestion de la douleur. Des choses sur lesquelles on peut travailler pas mal. Et puis voilà, j'en oublie, mais Ouais, c'est à peu près... En fait, en gros, en hypnose, on travaille vraiment sur tout ce qui est émotionnel. Donc émotionnel, ça peut être des gens qui peuvent avoir beaucoup de tristesse, des gens qui ont beaucoup de colère, qui ne savent pas gérer leur colère, qui n'arrivent pas à gérer de la tristesse suite à un deuil, etc. Donc c'est amené à passer le cap. Et puis, après, tout ce qui est comportemental, donc la cigarette, que ce soit d'autres addictions, ça peut être le comportement alimentaire, ça peut être...
L'utilisme, tu reçois beaucoup ?
Pas trop. Pas trop, je reçois un peu, ouais, ça m'arrive. Okay. Pas trop, après, souvent, moi là-dessus, il faut qu'il y ait un accompagnement derrière par les médecins et tout, parce que c'est pas la même chose que la cigarette, c'est, c'est quand même un autre niveau. Donc j'en ai pas trop, mais ça m'arrive d'en avoir complètement.
Okay. Et du coup, sur ta clientèle, c'est plutôt des jeunes ou pas du tout enfin...
Ça dépend pourquoi. Mais ouais, en général, c'est une vingtaine d'années, entre 20 et 30. Et puis après, bah ça dépend des problématiques en fait, mais non, mais je peux avoir de 20 à 45, 50, 60, ça arrive. Mais ouais, non, en fait, c'est vraiment un gros panel au final, de personnes.
Ok, et du coup, tu disais là, parce que, enfin, deux séances, ça dure combien de temps du coup une séance? Parce que genre, enfin... Moi, je fais des consultations de 20 minutes, je les revois quand même assez régulièrement. Bon, c'est quelque chose que, enfin, il y a certains patients, j'aborde ces questions, mais à chaque consultation, et que je les vois très longtemps. Et on aborde ça fréquemment, alors j'essaye de les amener un petit peu. Ida, elle fait des consultations jusqu'à une heure.
Ouais.
Et du coup, nous, il nous faut clairement plus de deux séances, quoi. Enfin...
Ben, je dirais que je prends une heure environ par séance, à peu près. Okay. Des fois, c'est un petit peu moins, des fois, c'est un peu plus, c'est un peu l'idée. Après, c'est ce que je leur explique, c'est-à-dire que moi, dans l'arrêt du tabac, l'idée c'est que s'ils le font, c'est parce qu'ils ont envie de le faire. Je vais bien leur expliquer déjà, parce que souvent on a cette idée de l'hypnose que ça va être un peu magique, de ce qu'on va aller dans un spectacle, on va claquer des doigts et pouf, qu'on va arrêter de fumer. Alors c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Je crois qu'il faut imaginer l'hypnose comme une aide, un accompagnement. C'est-à-dire que moi je leur dis, je vais faire 50% du travail, vous allez faire 50% du travail. Ça vaut aussi de vous donner les moyens. Après, toutes les séances d'hypnose du monde, toutes les thérapies, vous aurez toujours votre libre arbitre. Personne ne pourra vous empêcher de sortir de mon bureau et de vous allumer une clope en sortant. C'est pour ça que c'est important qu'ils soient si déterminés dans cette démarche-là. Et puis après, déjà, ça c'est important parce que ça les mobilise par rapport à ce changement-là. Et puis après, c'est leur donner le choix et leur... Je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais les mettre face à ce qui est important pour eux ou pas. C'est ça. Je crois qu'il y a plein de gens souvent qui veulent arrêter de fumer parce qu'on entend partout que fumer c'est pas bon pour la santé, parce que quelquefois leur femme, leur mari, leurs enfants les poussent à arrêter de fumer. Et je crois que c'est pas forcément une bonne chose. L'idée c'est qu'ils puissent le faire parce qu'ils ont envie de le faire, parce que c'est important pour eux, parce que ça a du sens.
Bah, nous, c'est justement l'idée même du podcast, le message qu'on veut véhiculer, c'est qu'on n'est pas là pour expliquer aux fumeurs pourquoi c'est mauvais d'arrêter de fumer. Je pense qu'ils le savent. Et le fait de leur mettre la pression et de leur rappeler à chaque fois que c'est mauvais, je trouve que c'est pas forcément une bonne approche. Et j'en parlais la dernière fois, mais moi, quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, j'avais posé une date, je me suis dit pour mon anniversaire, c'était deux mois avant, je vais arrêter de fumer, c'est parti d'un défi avec Amandine. Et entre le moment où j'ai pris la décision et le jour J, on n'en a pas parlé, il n'y a pas eu ce discours médecin qui va me faire la leçon, la morale, pour m'expliquer pourquoi c'est mauvais. Non, il n'y a pas eu du tout cette phase-là, et effectivement, je te rejoins complètement, il faut qu'ils y arrivent eux-mêmes. Et du coup, dans le premier épisode, on a parlé de...
motivation. Le mot motivation est beaucoup ressorti. Et Simon nous disait, mais ce n'est pas la motivation qui compte.
En fait, effectivement, c'est la motivation à un instant T. Moi, c'est comme si, vu la quantité de cigarettes que je fumais, en fait, c'est comme si j'avais atteint un stade où de toute façon, la question ne se posait pas. J'ai envie d'arrêter de fumer. Dans ma tête, c'était fait. Je dois arrêter de fumer. Je n'avais aucune idée de comment m'y prendre. Je ne savais pas si j'allais être accompagné ou pas. Tout ce que je savais, c'est que j'avais vraiment envie d'arrêter. Et c'est quoi les cycles de motivation dont on a parlé dans l'épisode précédent?
Je pense que tu connais la route Prochaska. Le Prochaska di Clemente, c'est sur nous, c'est un petit peu comme ça qu'on apprend à travailler aussi beaucoup en médecine générale. Et puis du coup, Ida le connaissait beaucoup sur justement l'éducation thérapeutique. C'est un gros outil d'éducation thérapeutique où on essaye d'évaluer la motivation, le stade de préparation du patient à un changement de comportement. Okay. Et du coup, on dit généralement que c'est une roue, mais dans laquelle on peut revenir plein de fois, on peut entrer à tout moment, et on peut ressortir soit avec un arrêt, ou rentrer avec une rechute du comportement. Donc que ce soit, en fait, ça fonctionne pour aussi les comportements alimentaires la cigarette, et on l'utilise vraiment beaucoup dans l'éducation thérapeutique, même avec les patients diabétiques, pour expliquer énormément de principes qui nous, voilà, sur les règles, ce qu'on appelle les règles religieuses diététiques, tout ça. Et du coup, on a notamment ce qu'on disait, c'est ce qu'on essayait de faire comprendre la semaine dernière à Simo, c'était le stade, par exemple, de pré-contemplation, c'est-à-dire que le patient, il n'est pas du tout prêt à changer. Mmh. Et du coup, là, on peut lui dire tout ce qu'on veut, on va être juste moralisateur et on ne va pas avoir d'impact vraiment.
Mais je pense qu'au
final... Il faut l'amener au stade de ce qu'on appelle la contemplation, où il se dit prêt, il envisage un changement comme étant possible, et là... Il va falloir essayer de lui donner des clés pour qu'il puisse passer dans le stade suivant et se dire prêt, enfin, mettre en place des choses concrètes.
Ouais.
Et en fait, c'est ça que nous, médicalement, entre guillemets, on appelait motivation. C'est comment le patient, à quel
mais
point il est prêt.
Mais vu en fait que c'est un cycle, bah, du coup, ça voulait simplement dire que pendant un mois, on était dans une phase du cycle et dans le mois
ou des années.
On était dans le mois. Donc j'imagine en fait que les patients, les clients qui arrivent vers toi, finalement, ils sont dans une phase bien définie. Du coup, ils ont pris la décision, ils ont fait la démarche de venir par eux-mêmes.
Ou pousser. Comme disait Ida, en fait.
Ouais.
Ida, il y a des patients qui lui sont adressés par les médecins généralistes, qui l'ont inscrit sur son planning. Et en fait, ils arrivent dans sa consultation en disant, mais non, j'ai
pas envie
d'arrêter.
Et toi, du coup, t'en as beaucoup comme ça ou...
Ça m'est arrivé, ouais, j'ai des personnes qui venaient de Suisse, qui parlaient même pas français, et qui voulaient arrêter de fumer parce qu'ils avaient eu la connaissance qu'une de leur entourage arrêtait de fumer en venant me voir, et imaginaient qu'avec l'hypnose, j'allais faire un truc un peu magique et qu'ils allaient arrêter de fumer, ouais. Du coup, j'étais un peu embêté parce qu'ils avaient fait 2h30 de route, et je leur ai dit, ben, moi je peux pas, enfin si vous comprenez...
Tu les endors pas, en fait.
Ben non, je les endors pas du tout, enfin c'est pas, ça c'est un peu un cliché qu'on a de l'hypnose, mais...
Ouais. Mais en fait, à aucun moment, on endort quelqu'un dans une séance.
En tout cas, s'ils dorment, ils ne font que dormir. Ça ne sert à rien. Donc, ça peut arriver qu'il y en a qui s'endorment, mais ce n'est pas le but. Quoi.
Ouais.
S'ils s'endorment, ils ne nous écoutent plus, donc il ne se passe pas grand-chose. Non, l'idée de l'hypnose, c'est vrai qu'il y a pas mal d'a priori sur l'hypnose. Moi, si je peux donner un peu ma vision de l'hypnose, même si c'est un peu vulgarisé, mais... En fait, déjà, ce qu'on sait, c'est qu'un état d'hypnose, c'est un état que tout le monde connaît, qu'on vit plein de fois par jour. Ce qu'on peut appeler des états modifiés de conscience ou des états d'hyper-focalisation, d'hyper-concentration. Vous savez, c'est le genre d'état qu'on peut vivre, par exemple, quand on discute avec quelqu'un, on peut être happé par une conversation, puis à un moment donné, on veut dire un mot, une phrase, et là, pof, on va complètement décrocher. Il y a une partie de nous qui continue de faire oui de la tête, pourtant, des ok, des hum, hum. Une partie de nous qui est complètement ailleurs, puis à un moment donné, on revient, on se dit mince, mais qu'est-ce qu'il me raconte depuis tout à l'heure? Donc ça, ce qu'on va appeler par exemple un état modifié de conscience, mais en fait on le retrouve très souvent dans notre quotidien, je sais pas, quand on est happé par un bon film, qu'on peut se mettre à rire, à pleurer, avoir nous amener une nouvelle perception, un nouveau regard sur quelque chose, même quand on lit un bon livre, je crois que ça, c'est ce qu'on appelle aussi des états modifiés de conscience, et ce sont des états qui sont propices au changement. En fait, pour la petite histoire, l'hypnose, ça vient du grec, hypnose c'était le dieu du sommeil, c'est souvent pour ça d'ailleurs que c'est associé au sommeil, et qu'il y a plein de gens qui imaginent qu'on va dormir pendant un état d'hypnose. En fait, je crois que ce qu'on oublie, c'est que ce dieu du sommeil permettait d'endormir les gens, mais aussi de les réveiller. Et d'après moi, en fait, un état d'hypnose, c'est beaucoup plus un état d'éveil qu'un état de sommeil. En fait, on va beaucoup plus être concentré sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, sur les sensations, les émotions, les perceptions, les idées, les images, les couleurs, les pensées, enfin bref, tout ce qui pourrait venir. Et en fait, l'idée de l'hypnose, d'après moi, c'est ça. Alors, je vais faire des petits gestes, mais ça ne va peut-être pas parler aux auditeurs. Mais par exemple, si mon point, là, ça représentait une problématique, puis que les gens étaient tout petits devant, juste là, et qu'ils se disent « mais comment je vais faire pour aller passer derrière ?» Ben, l'idée de l'hypnose, d'après moi, c'est de leur faire prendre, c'est pas de les aider à passer derrière, c'est de leur faire prendre du recul par rapport à ça. Et le fait de prendre ce recul-là, c'est voir les choses sous un nouvel angle, avec un nouveau regard, et du coup, peut-être trouver un nouveau chemin qui va être plus approprié, plus juste, ou même partir complètement dans le sens et arriver de l'autre côté. C'est nous amener à des prises de conscience.
Du coup, cet état-là que tu décris, c'est un peu l'état qu'on cherche à atteindre en méditation.
Ouais.
C'est l'état, dans le cadre des sportifs, on appelle ça la zone.
Ouais,
dans mon métier, la tech, dans le développement informatique, on appelle ça... complètement la zone.
Ouais.
C'est un endroit où on est tellement focalisé, calme, lucide, où on arrive à produire d'une manière très très vite, très très rapide, concentré. Et donc c'est cet état-là au final que tu essaies d'amener tes clients.
Ouais. Alors je dirais qu'il y a un peu une différence entre les états modifiés de conscience et puis les états de flow. Parce que, enfin, si on est dans un état modifié de conscience, hein, mais c'est un état qui va être particulier, qui va me permettre de plus réfléchir et puis de faire quelque chose.
Donc c'est pas vraiment. C'est similaire au flow.
C'est similaire, mais en fait, on retrouve le même état, mais je pense un petit peu. Peut-être ça nous amène sur un truc bien précis, parce qu'on peut être dans un état modifié de conscience sans être dans un état flou, en fait, c'est ce que
d'accord.
Je veux dire, en fait. Mais
là, ça va plus être la théorie de Daniel Kahneman du système 1, système 2, des deux vitesses de la pensée. Donc on a un système rapide, qui est instinctif, qui est automatique, et derrière, on a un autre système plus lent, plus réfléchi. Ça pourrait être aussi...
Ouais, ça peut être lié à ça. Et, mais voilà, donc je ne sais plus où on va en venir en parlant de tout ça.
On perd souvent le fil, t'inquiète, c'est normal.
On essaie juste de casser un peu le cliché de « on va s'endormir ». Non, en fait, la séance, c'est d'amener la personne dans cet état.
Exactement, ouais. Et de les amener à avoir un peu des prises de conscience par rapport à ça. Et donc voilà, c'est un peu l'idée.
C'est en fait essayer de les faire réfléchir à leurs problématiques dans cet état-là, du
coup. Voilà, avec un nouveau regard, en fait, sous un nouvel angle. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Mmh. Mais en fait, un état d'hypnose, c'est pas grand-chose. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de discuter avec quelqu'un, quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Cette personne fait la même chose que vous, mais de manière un peu différente. Il vous explique sa manière de faire, vous l'écoutez, et puis à un moment donné, vous avez des déclics, vous dites Ah, mais ouais, c'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça. Et quelquefois, du jour au lendemain, même si ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on fait la même chose, on a peut-être complètement changé sa manière de penser ou de faire parce qu'on a ce déclic qui nous donne ça beaucoup plus logique. Bah, l'idée de l'hypnose, c'est ça, en fait, c'est de mettre des petites graines et après, c'est de laisser germer et de voir un petit peu comment ça va évoluer.
Et du coup, comment on amène les gens dans cet état, du coup ?
En soi, mettre quelqu'un dans un état d'hypnose, c'est pas très compliqué. Tout le monde peut apprendre à le faire, hein. Faut pas avoir de dons ou quoi que ce soit, c'est juste des techniques de communication qu'on peut apprendre. On peut apprendre à faire ça en un week-end. Après, ce qui est surtout compliqué, c'est d'amener les gens à changer.
Est-ce qu'on peut le faire à soi-même ?
Ouais, on peut faire de l'auto-hypnose, ça s'apprend super bien. Et ça ressemble, quelque part, on retrouve ces états de méditation un peu. C'est le même état qu'on trouve en méditation, mais seulement qu'on y rentre et puis qu'on y travaille de manière différente à l'intérieur. Mais oui, on peut complètement apprendre à faire de l'auto-hypnose, ouais. Ouais, tout à fait.
Ok. C'est quelque chose qui m'intéresse du coup.
C'est marrant parce qu'au final, on revient toujours sur les mêmes mots qui est revenu là plusieurs fois, c'est prise de conscience. Et la semaine dernière avec Ida, encore une fois, pareil, ce mot de prise de conscience, il est revenu plein de fois. Et c'est marrant, ça me faisait penser, hier j'ai eu une consultation avec une patiente qui a 65 ans, qui fume 2 paquets de clopes par jour et qui n'a jamais réfléchi en fait à son addiction. Mmh. Et à chaque fois que je la vois, chaque fois, je lui dis bon alors, madame, vous en êtes où de la cigarette ? Et à chaque fois, elle me dit quelque chose. Et puis la dernière fois, justement, elle me disait, bah, là, c'est cool parce que j'ai l'impression que je commence à être dégoûtée. Alors je dis, je me suis mis un petit mot, je me suis mis une petite note dans un petit coin, en mode, ah, faut lui reparler, là, on tient un petit truc. Et puis je l'en ai reparlé, là, on revenait pour autre chose. Tu dis, ah, et alors la cigarette ? Et elle me dit, ah, bah, la dernière fois, vous aviez l'impression que vous alliez être vous étiez un peu dégoûtée, là, en ce moment, de la cigarette, dernièrement et tout. Puis elle me dit, ah, ouais. Je lui dis, mais c'est une patiente qui a un gros terrain anxieux. Je lui dis, mais vous pensez vraiment que vous fumez à cause de l'anxiété, pas que, en fait, c'est faux, que ça augmente votre anxiété et que... Et du coup, elle me dit, ah, c'est marrant. Et en fait, cette patiente, c'est une évidence pour quelqu'un d'extérieur qu'elle fume à cause de son anxiété, comme elle prend la clope comme un anxiolytique. Mmh. Et en fait, moi, je lui ai apporté simplement, je lui ai dit, mais vous savez, c'est un faux anxiolytique, la cigarette. Vous augmentez votre anxiété en croyant la diminuer. Mmh. Quand vous allumez votre cigarette, c'est exactement ce qu'on disait la semaine dernière.
Appliqué...
J'avais l'impression de redire ce qu'on a dit la semaine dernière dans le podcast. Et je lui ai dit, mais en fait, ce qui vous soulagez votre besoin de nicotine. Vous ne soulagez pas votre anxiété. Votre anxiété, elle est toujours là au même niveau. Vos soucis, ils sont toujours là. Ça n'a pas disparu parce que vous êtes allumé une clope de plus. Au contraire, vous savez que ce n'est pas bien la cigarette. Vous avez rajouté un problème en plus. Mmh. Elle me dit, ah oui, c'est vrai ça. Mais en fait, comment ça se fait qu'à 65 ans, elle ne se soit jamais dit qu'en fait, quand elle allumait sa cigarette, elle soulageait son besoin de nicotine et elle ne soulageait pas son anxiété. Ouais. Jusque-là, en fait, et elle a commencé à fumer très jeune, cette patiente. Et en fait, elle n'avait pas pris... pour moi, ça a été une prise de conscience quasiment hier. Et elle me disait, ah, mais c'est vrai ça, docteur. Ah, mais c'est vrai. Et je dis, bah oui, c'est vrai. Je sais bien que c'est vrai. Mais moi, dans ma tête, je me disais, mais comment ça se fait
Même moi, avec du recul, en fait, parce que dans l'épisode précédent, on a beaucoup parlé de l'accompagnement qui m'a aidé dans le sevrage, mais on n'a pas assez parlé du livre d'Alain Carr, je sais pas si tu connais bien. Qui au final, moi, le jour où j'ai décidé d'arrêter, j'ai mis un patch, j'ai pris un chewing-gum, je me suis posé dans un café, j'ai pris le livre et je l'ai lu en entier d'une traite.
Okay. Et le chapitre sur les substituts.
Exactement. En fait, j'étais pas prêt, du coup il y avait un chapitre sur les substituts où il disait qu'il fallait pas en prendre, ça je le savais, donc j'ai dit je lis pas ce chapitre, je veux pas savoir, donc c'est pas non plus une bible, le bouquin, faut prendre ce qu'on veut dedans, moi je l'ai pris comme ça, et donc en fait j'ai lu le bouquin, et au final ce qui m'a permis de faire c'est de remettre en question plein d'a priori, plein de blocages psychologiques que j'avais, réfléchir justement au début de la première fois qu'on prend une cigarette, mais c'est vraiment, je pense maintenant... Quand tu nous expliques l'état d'hypnose, c'est vraiment ce bouquin, c'est un condensé de petit moment où on se dit « Ah, mais c'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça. » Et en fait, « Ah oui, c'est vrai. » Et c'est le genre d'exemple, justement, que moi, je ne me rendais pas forcément compte que j'amplifiais mon stress avec la cigarette.
Ouais.
Et c'est quand j'ai arrêté que j'ai découvert plein de choses dans mon corps, mon rythme cardiaque qui s'est ralenti, genre au bout d'une semaine. Et derrière, même mes phases de stress au travail, par exemple, où j'avais le réflexe de sortir fumer, bah, c'était pas la même intensité. Donc là-dessus, tu vois, mais le déclic, justement, je l'avais eu dans le bouquin. C'est pas quelque chose auquel j'ai pensé moi-même. Et là aussi, c'est là où je te dis que l'accompagnement est hyper important. Oui. C'est d'amener les gens.
C'est là où tu... Mais c'est encore un mot.
Et c'est encore... Ouais.
Le mot accompagnement qui est beaucoup venu la semaine dernière, que toi, tu dis beaucoup, parce que selon Simo, il a réussi à arrêter... En partie grâce à moi. Mmh. Moi, j'ai toujours un peu...
En fait, elle ne se rend pas compte en fait, de l'impact qu'elle a eu. Mais moi, il y a eu beaucoup de moments de faiblesse. Il y a eu beaucoup de moments où on a besoin juste d'un petit mot. On a juste besoin de parler et poser une question et avoir surtout l'avis d'un médecin qui nous explique l'impact sur le corps. Des fois, c'est juste des petites phrases comme ça. J'ai une allergie. En fait, quand on arrête de fumer, on a les cils des poumons qui se remettent à marcher.
Ouais.
Et du coup, bah, ça enlève tout ce qu'il y a dans les poumons. Et à ce moment-là, on a une toux, mais genre terrible. Mais juste le fait de le comprendre après, en fait, t'inquiète pas, c'est normal, c'est bien. C'est tout là qui était un peu violente. Bah, c'est normal, c'est bien.
Ça se décrasse,
c'est nickel.
Littéralement.
Et bah, c'est juste des... Au final, oui, c'est ce qui fait la différence. Faire ça tout seul, je ne m'imaginais pas être tout seul dans mon coin, arrêter de fumer et le vivre aussi sereinement que je l'ai vécu. Parce qu'au final, c'était beaucoup plus simple que ce que je croyais au final.
Mais souvent, en fait, souvent je donne trois clés un peu à mes clients qui viennent me voir pour arrêter de fumer. La première clé souvent que je donne, qui amène un peu des prises de conscience pour moi, la première clé que je donne, c'est de se dire déjà qu'arrêter de fumer, c'est la chose la plus simple qu'on va faire dans sa vie. En fait, je leur dis, alors c'est un peu bizarre que je vous dise ça, et souvent ils me regardent avec des grands yeux, je leur dis, mais en fait, on sait plein de choses grâce aux neurosciences qui nous aident, on sait que notamment le cerveau fait pas réellement différence entre le réel et l'imaginaire, et plus vous allez vous dire que c'est dur et compliqué d'arrêter de fumer, plus votre cerveau vous fait ressentir que c'est dur et compliqué d'arrêter de fumer. Donc, souvent, je leur fais un petit schéma à ce moment-là, en montrant les émotions, qu'elles influent sur nos pensées, qui influent sur nos comportements, etc.
Et donc, projection.
Exactement. Ouais, je leur dis qu'à chaque fois qu'ils ont ces émotions, en général, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire « Ah non, quand je vais aller boire l'apéro avec les copains, comment je vais faire ? Ils vont tous fumer leur clope. » On a tendance à imaginer le pire et forcément, on y va. Ben, on a un comportement qui est associé à nos pensées. Et du coup, ça influe sur nos émotions, etc. Et ça crée un petit peu un cercle vicieux qui nous tire vers le bas. Et donc, moi, ce que je leur propose, c'est la première clé, c'est d'aller commencer à imaginer les choses de la manière dont on voudrait que les choses se passent. Plus jamais de la façon dont ils ont peur que les choses se passent. Tiens, si j'ai arrêté de fumer et que ça se passait super bien pour moi, ça se passerait comment ? Comment je le vivrais ? Comment je serais ? Un peu comme un sportif de haut niveau qui avance.
C'est exactement ça. Alors, ils imaginent la course parfaite ou le match parfait.
Alors du coup, leur cerveau va avoir tendance à s'habituer à ça et tendance à les diriger vers ça. Alors ça ne fait pas toute la différence. Hein. La deuxième chose que je les invite à faire, bah, c'est à se comporter comme si tout seul arrivait. Je leur dis, vous allez jouer la comédie. Faites semblant. C'est la chose la plus simple que vous faites dans votre vie. Et pareil, en fait, on sait que le cerveau, d'une certaine manière, si on fait semblant de sourire, notre cerveau va développer un taux d'hormones, va commencer à nous rendre réellement heureux. Il y a le yoga du rire qui a été fait là-dessus, d'ailleurs, je prends cet exemple. Et de la même manière, si on fait semblant d'être serein, bah, notre cerveau va développer un taux d'hormones, va commencer à nous rendre réellement serein. Et en fait, le fait de penser de cette manière-là, de vous comporter comme si c'était simple, ça va commencer à avoir de l'impact sur nos émotions. Et du coup, ça va être encore plus facile de penser comme ça, plus facile de se comporter comme ça, etc. etc. Et ça en crée un cercle virtueux. Et je prends souvent cet exemple d'ailleurs des acteurs, quelquefois on entend dire qu'ils restent bloqués dans certains rôles. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça.
Oui, bien sûr.
Ben, c'est exactement pour moi la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont tellement en train de penser comme leur personnage tout le temps, de se comporter comme lui, qu'ils commencent réellement à sentir les émotions, etc. Donc ça, pour moi, c'est une clé qui est importante. Et souvent d'ailleurs, après ça, je leur fais faire des petits jeux d'imagination, des petits jeux de suggestibilité où on peut avoir les doigts qui se mettent à coller, où on peut avoir le corps attiré vers l'avant, vers l'arrière, etc. Et ça leur permet encore plus de prendre conscience à quel point notre cerveau peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Quand les gens se rendent compte qu'ils ont les doigts qui sont collés l'un contre l'autre et qu'ils n'arrivent plus à décoller comme ça en quelques secondes, je leur dis, mais vous voyez, je vous dis qu'en soufflant sur vos doigts, ça va être plus facile de décoller. Ben, je vous ai fait croire en 2 secondes que vos doigts étaient collés, et je leur fais croire en 2 secondes, c'est plus facile de le faire en soufflant sur les doigts, et à quel point finalement ça peut faire la différence. Donc ça, c'est un truc qui est pour moi assez important. La deuxième clé que je leur donne, en 2 points, c'est de se dire que plus jamais, s'ils le décident en tout cas, s'ils font le choix, c'est de se dire que plus jamais ils vont fumer, se dire que c'est terminé pour eux. Alors pourquoi ? Pour 2 raisons. Ben, la première, c'est que notre cerveau, c'est une machine à nous envoyer plein d'informations. Et lui va nous faire remonter à la surface les informations qui sont les plus importantes pour lui. Et vous savez, par exemple, quand on veut s'acheter un truc important, on a tendance à le voir de partout. Un peu comme un signe, on se dit « Ah, j'arrête pas d'en voir en ce moment. » En fait, c'est pas qu'on en voit plus qu'avant, c'est que notre cerveau nous le fait remarquer. Ce qu'on appelle un biais cognitif. Et du coup, c'est un peu la même chose pour la cigarette. Si on se dit « Bon, allez, à la rigueur, je vais tester l'hypnose, mais si éventuellement je suis un peu trop stressé, ou si je passe vraiment une bonne soirée avec les copains, si je suis un peu trop triste,
Mentors
of a Infinite Club, forcément, dès qu'on va se diriger vers
moi, ça. » Moi, là-dessus, en fait, c'est là où il le répète souvent dans le livre, c'est que juste une cigarette, ça n'existe pas.
Exactement.
Et en fait, moi, j'avais une amie qui fumait autant que moi, donc dans mon cercle d'amis, j'étais considéré un des plus gros fumeurs.
Ouais.
Et elle avait arrêté pendant 4 mois. Et moi, je lui avais dit à l'époque, comment t'as fait ? Moi, si je réussis à arrêter pendant 4 mois, ça me paraissait tellement énorme que j'arrête, c'est tout. Elle m'a dit, en fait, au bout de 4 mois, dans une soirée, j'allume une cigarette avec les copains en apéro. Je me dis juste une cigarette et c'est reparti comme ça. Et donc, je me suis toujours répété cette phrase de jamais une seule cigarette. Et j'avoue qu'il y a eu beaucoup de moments... Parce que l'envie de fumer, je pense, j'ai fumé 10 ans. Là, ça fait 4 ans que j'ai arrêté. Je pense que des fois, ça refait surface, mais avec beaucoup moins d'intensité et je ne la prends même pas au sérieux.
Ouais.
Et du coup, par contre, au début, la tentation de se dire « Là, ça fait 6 mois, je peux quand même me permettre une cigarette » et j'ai dû résister à ça. Au bout d'un an, c'était pareil au bout de 2 ans. Et aujourd'hui même, des fois, ça m'arrive que j'ai des petites envies, mais je garde toujours en tête une cigarette, et je sais que si j'en reprends une, y a un gros risque que je replonge dedans complètement.
T'as raison. D'ailleurs, dans le livre d'Alan Carr, il parle de la cigarette comme un petit monstre. Il dit, il faut imaginer la cigarette comme un petit monstre, qu'on fume sa première cigarette, c'est comme si on avait ce petit monstre, et plus on fume, plus on donne à manger, plus le petit monstre est grossi. Et le jour où on décide d'arrêter de fumer, le petit monstre diminue jusqu'au jour où il s'assoupit. Mais il disparaîtra jamais, il sera toujours là. Il attendra qu'une seule chose, c'est juste qu'on retouche une seule cigarette, on leur donne à manger.
C'est une très belle anecdote. Enfin, c'est une très belle comparaison, l'image,
Mais et ça, c'est souvent, en fait, c'est simplement le.
Mais moi, je continue à me considérer comme fumeur, enfin, un ancien fumeur. C'est-à-dire que l'envie, je me dis, si je ne fais pas attention, même dans 10 ans, ça peut repartir. Donc.
Mais ça c'est vrai en plus. Il y a des patients qui ça arrive. Et en fait, médicalement, sur les neurosciences, tu me corrigeras, mais du coup, effectivement, c'est ce qu'on appelle y a des patients qui sont plus à risque de développer des addictions. Et en fait, on le sait très bien. Nous, on sait que si un patient, il a un passé d'addiction, on va être beaucoup plus prudent sur certaines molécules, sur certaines... on va y faire attention parce qu'on sait très bien qu'il peut retomber facilement.
Les circuits d'addiction sont plus développés chez certaines personnes plus que chez d'autres. Moi, je le sais.
Et en fait, c'est des patients qui ont tendance à l'addiction. Il y en a qui ont beaucoup moins cette tendance-là. Et même sur, pourtant, la cigarette, c'est en termes de risque d'addiction, c'est très important. Mais pourtant, on le voit vraiment. Et c'est quelque chose auquel nous, on est très sensible sur le plan médical.
Donc ça, c'était le deuxième point.
Oui, c'était le deuxième point. D'ailleurs, je rajoute souvent un petit truc. Souvent, la plupart des gens qui arrêtent de fumer, il y en a pas mal qui ont tendance à éviter certains lieux, certains endroits, certains contextes de peur de fumer, de peur de craquer. Et moi, ce que je leur dis, c'est que je les invite plutôt à y aller. C'est-à-dire, souvent, j'aime bien leur raconter cette histoire. C'est peut-être pas la plus adaptée, mais ça me fait un peu penser à ça. Je leur dis, mais imaginez que vous êtes dans une espèce de tunnel, un tunnel qui serait sombre, qui serait lugubre, il y a des tacs de partout, des néons qui s'éteignent, qui s'allument, des flaques d'eau au sol, et vous commencez à marcher dans ce tunnel, et là vous commencez à sentir qu'il y a comme une espèce de présence derrière vous, il y a une espèce de fantôme qui commence à vous suivre. Alors vous commencez à accélérer, et plus vous accélérez, vous sentez que le fantôme il accélère, puis il grossit de plus en plus. Et puis bientôt vous sentez son souffle dans votre nuque, et si à ce moment-là vous arrêtez, vous vous retournez et que vous le regardez droit dans les yeux ce fantôme, à votre avis qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va. Et moi, ce que je les invite à faire, c'est, je leur dis, mais allez dans ces lieux, allez dans ces endroits, en tout cas, ne les évitez pas. Et plutôt que de tout faire pour avoir, vous dire, il ne faut pas que j'ai envie de fumer, parce que souvent, on a cette peur d'avoir envie et de craquer. Moi, je leur dis, plutôt, dites à ce fantôme, mais vas-y, viens, je ne fumerai pas.
Moi, ça me parle beaucoup, parce que je me souviens qu'au bout d'une semaine, j'avais un ami qui était venu me voir, et il fumait sa clope devant moi, et Amandine l'avait très mal pris, parce qu'il fumait, et moi, je prenais toute la fumée. Elle était plus stressée que moi, parce que moi, j'étais en mode, j'ai décidé d'arrêter de fumer. De toute façon, je ne vais pas arrêter de voir mes amis fumeurs parce que j'ai arrêté de fumer. J'ai fait une pause pendant un mois. J'ai évité les soirées parce que je sentais que je n'étais pas prêt. Mais au bout d'un mois, bah, je suis parti, j'ai fait des soirées comme tout le monde. C'était dur au début. Il y a eu une soirée où c'était vraiment très compliqué,
ouais,
où j'avais vraiment envie de fumer. Mais là, on en parlait dans l'épisode précédent sur les substituts. En fait, je gardais souvent avec moi mes chewing-gums nicotine.
Ouais.
Et même, je pense, même un an après, ouais, j'avais toujours mes chewing-gums nicotine qui, ouais, me rassuraient. Et je me disais, si au pire, j'ai une grosse envie. À ce moment-là, j'avais déjà fait la séparation entre le besoin physique, psychologique. Je pense que le besoin physique était passé. Mais ça me rassurait, en fait, de juste mettre ma petite gomme. Et ça me calmait, ça me donnait ce shot de nicotine. Ouais. Et ça me calmait. Et c'était rassurant pour moi. Mais effectivement, c'était dur au début. Je pense que même une semaine ou deux après, j'étais allé à Toulouse. Et j'étais dans un bar avec des copains. Et du coup, il y avait deux fumeurs autour de moi, et à chaque fois ils sortaient fumer leur clope, ils revenaient avec l'odeur, et j'ai passé genre 2 heures comme ça. et limite je me sentais fort après, en fait, j'étais, ouais, en mode bah là ok, j'ai eu une envie, mais c'est pas aussi c'est pas aussi intense et c'est pas aussi désagréable que ce que je pensais. L'image que je me faisais de ce moment-là était beaucoup plus complexe, enfin était beaucoup plus intense que le moment en soi. Donc au final, effectivement.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est la notion de décision. Enfin, du coup, pour suivre ma troisième clé, c'est un peu ce que je dis souvent à mes clients. La plupart des gens qui viennent me voir, quelquefois, ont tendance à dire je dois ou il faut que j'arrête de fumer. C'est un peu ce qu'on se disait au début. Et à chaque fois qu'on se dit je dois ou il faut, on est juste en train de s'interdire ou de s'obliger à faire quelque chose. Mm-hmm. Et si on interdit de faire quelque chose à un enfant ou à quelqu'un, bah, c'est la première chose qu'il a envie de faire. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, c'est une machine à nous envoyer des informations. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on les considère. C'est-à-dire qu'il vous envoie dans une fumée, sinon on lui dit non, tais-toi, faut pas que je fume. Mais en général, il se dit ah bah tiens, fermez la porte, je vais rentrer par la fenêtre un peu plus fort. Et du coup, on est toujours en train de se battre contre une partie de nous-mêmes. Et dès qu'on est un peu fatigué, épuisé, qu'on a bu un coup trop, qu'on est même trop content, etc., on va s'autoriser une clope et on a perdu. Et moi, ce que je les invite à faire, c'est plutôt de voir les choses un peu de manière différente. Plutôt que de se dire je ne dois pas ou il ne faut pas, c'est de se dire j'ai envie de. Alors ça paraît peut-être tout bête et juste jouer avec les mots. Pourtant, je crois que ça fait complètement différence si à chaque fois qu'on a envie d'une clope, on se pose cette question, ok, c'est vrai que ça pourrait être chouette de fumer, mais en quoi c'est vraiment important pour moi d'arrêter de fumer ? Est-ce que je le fais juste parce que je me dis que ça serait mieux d'arrêter de fumer pour la santé, comme 99% des fumeurs le savent, on ne va pas se mentir ? Ou est-ce que je le fais aussi parce que j'ai envie d'atteindre quelque chose de différent ? Quel est le sens profond que j'allais mettre derrière tout ça ? Et pour moi, c'est ce qui fait la différence, parce qu'à partir de ce moment-là, si on fait le choix de ne pas prendre cette cigarette, émotionnellement, on n'est plus en train de se frustrer, on n'est plus en train de subir, on est en train de faire un choix, on redevient proactif. Et on se focalise vers ce qu'on veut atteindre, pas vers ce qui nous manque. Et pour moi, ces gens-là qui arrivent à arrêter de fumer du jour au lendemain, que ce soit des fumeurs, quelquefois on a tous un peu dans nos connaissances, quelqu'un qui s'est levé un matin, qui a acheté son paquet de clopes, qui a dit je ne vais plus jamais fumer, ou même quelquefois des femmes qui tombent enceintes et le jour où elles apprennent qu'elles sont enceintes, il y en a qui arrêtent de fumer super simplement. Alors, il y en a qui reprennent après, mais elles ne le font pas parce qu'ils se sentent obligées de le faire, mais parce qu'il y a cette notion d'avoir envie de le faire. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important, en tout cas, au début.
Bah, ça, là, je corrigerai un peu, parce que alors, j'en ai, ouais, des patientes comme ça, justement. Ouais. Et alors ça, effectivement, c'est pour moi hyper difficile de les accompagner, parce que c'est très fréquent. T'as des patientes qui fument leur paquet de clopes par jour. Le jour où elles apprennent qu'elles sont enceintes, elles s'étaient toujours promis pour la santé de l'enfant, etc., elles arrêtent, du jour au lendemain. Pendant toute la grossesse, zéro clope. Et franchement, elles le tiennent hyper bien. Allaitement, pas de clope. Et en fait, comme elles savent que derrière, elles l'ont... Pour moi, elles ne l'ont pas fait pour elles. Ce n'est pas l'envie d'eux. Elles l'ont fait pour le bébé. Mmh. Elles l'ont fait pour l'autre. Et en fait, ces patientes-là, pour les faire arrêter, en fait, enfin, à long terme, c'est horriblement difficile. Parce qu'en, ouais, fait, justement, cette histoire de petit monstre, ces patientes-là, elles vont revenir nous voir après en disant « J'ai trop envie, j'ai trop envie, j'ai trop envie.
Mmh. »
Et en fait, elles se sont tellement forcées, tellement frustrées, en quelque sorte, pour le bébé, que quand le bébé n'est plus une raison parce que bah il a un certain âge et que elles vont le sevrer en lait, même si bien sûr après pour les poumons etc, d'accord, mais en fait c'est pour moi des patients qui reprennent en fait, mais et elles ont endormi le petit monstre, et ouais, du coup elles veulent pas des substituts nicotiniques parce que elles considèrent que si on redonne de la nicotine on va réveiller le petit monstre. Et du coup, en fait, elles sont très difficiles à accompagner, ces patientes. Et justement, dans le dernier épisode du podcast, on va recevoir une sage-femme, ouais, pour discuter plus spécifiquement de ce problème-là. Parce que moi, en tout cas, dans l'accompagnement avec mes patientes, c'est une énorme difficulté pour moi.
Mais je suis complètement d'accord avec toi, hein, sur ce que tu dis. En fait, quand je dis elles le font parce qu'ils ont envie de le faire, c'est, je pense, le sens qu'on va y mettre derrière.
Bien sûr.
Tu vois, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elles ont le sens pour elles, comme tu disais, depuis tout petit, elles se sont dit quand je serai enceinte, j'arrête de fumer, etc. Ça a du sens pour elles d'arrêter de fumer. il y a un truc profond qui les pousse à arrêter de le faire. Par contre, quand elles ne le sont plus, qu'elles doivent accoucher, il n'y a plus aucun sens d'arrêter de fumer. Mmh. Et du coup, elles reprennent et ça reprend comme avant. Et ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et c'est super dur après que ça puisse rester avec ces gens-là, c'est ce que je leur dis. Ou quelquefois, quand il y a des femmes qui viennent me voir, qui tombent enceintes, mais qui n'arrivent pas à arrêter de fumer, c'est super compliqué de les accompagner parce qu'elles le font plus parce qu'elles sont enceintes et que ça peut, parce qu'elles le savent, parce qu'elles culpabilisent, parce que ça peut faire du mal à leur bébé. Et du coup, ce qui est plus dur, c'est de les amener à le faire pour elles et pas pour le bébé. Et donc voilà, moi, souvent, ce que je fais, en tout cas avec mes clients qui viennent me voir, là, ce que je les amène vraiment à faire sur les premières séances, c'est à le faire pour eux et à remettre du sens sur le pourquoi ils le font. Alors, laisser le choix, je leur dis, mais c'est un peu ce que je parle aussi à un moment dans ma séance, c'est que je leur dis, mais vous avez plein de bonnes raisons de fumer. Ça vous apporte plein de choses. Non, mais c'est vrai en plus.
Bah, oui, bien sûr.
Ça leur permet peut-être de gérer leurs émotions, même si, en tout cas, même si c'est psychologique, ça leur permet de marquer tant de pauses dans la journée, ça stimule la digestion, c'est un super moment convivial entre amis, une super manière de gérer leurs émotions, etc. Donc il y a plein de super avantages à fumer. Et après, il y a plein de super inconvénients à fumer, ils le savent aussi. Je n'ai pas besoin de le rappeler, mais des maladies, enfin bref, on le sait tous. Et je leur dis, mais maintenant, il y a plein d'avantages et plein d'inconvénients. Si tous ces inconvénients là, du tabac sur la santé, les risques de cancer, de maladies sur le porte-monnaie, on appelait ça le prix à payer. Je vous invite juste à se poser cette question. Quel prix vous êtes prêt à payer pour avoir tous les effets positifs extraordinaires que la cigarette peut vous apporter? Et juste à ce moment-là, faire un choix. Parce que moi, je ne suis pas là pour leur dire c'est bien ou c'est pas bien de fumer. Ils font ce qu'ils veulent, quelque part. Mais c'est juste faire un choix. Et à partir du moment où ils vont faire un choix, je crois que c'est ce qui va faire la différence. Il y en a qui me disent, mais vous avez raison, j'ai pas vraiment envie d'arrêter de fumer. Mais c'est vrai,
mais oui,
et c'est
sûr.
Ok, parce que je crois que le jour ils ont vraiment envie d'arrêter de fumer, ils ont peut-être même pas besoin de venir me voir. Mais en fait, c'est remettre du sens sur le pourquoi.
Et ça rejoint ce qu'on disait au début dans est-ce que c'est plus facile pour les gros fumeurs ou pas.
Exactement.
Parce qu'au final, moi, c'était le prix à payer. Je commençais à le payer en fait déjà. Je le voyais en fait sur ma santé, je m'en rendais compte. Dès que je ne faisais pas de sport, parce que en plus je suis asthmatique et je fumais, donc dès que je ne faisais pas de sport pendant 2-3 semaines, je le sentais sur mon souffle. J'étais essoufflé quand j'avais même pas 30 ans et j'étais essoufflé en faisant deux étages d'escalier. Du coup, clairement, pour moi, le prix à payer, c'était trop cher. Du coup, c'était fait dans ma tête.
Ouais.
Donc, c'est tout à fait ce que tu dis.
Et des fois, le prix à payer, ce qu'on disait aussi la semaine dernière avec Ida, je suis désolée, je fais beaucoup de références au premier épisode. mais ça, je trouve ça assez marrant comme on revient tout le temps en fait, sur les mêmes choses. On disait que pour certains patients, il y a une espèce de, en fonction d'un peu du, on l'a mis avec le niveau socio-culturel parfois, mais que certains patients qui sont moins dans la démarche de prendre soin de soi, qui vont moins essayer de comprendre leur addiction, ils vont plus attendre en fait souvent qu'il y ait une complication qui arrive, et c'est plus des patients qui vont, on disait, attendre que d'un coup il y ait une complication grave qui leur tombe dessus. Et à ce moment-là, ils prennent conscience brutalement du truc. Et c'est des patients qui vont, par exemple, arrêter de fumer du jour au lendemain parce qu'ils ont fait un infarctus. Et à l'hôpital, ils arrêtent comme ça d'un coup et ils ne retouchent jamais une cigarette.
Ça, limite, quand je te disais tout à l'heure qu'au final, ça m'a beaucoup aidé d'être accompagné et d'avoir un médecin. Je me souviens une fois, sur une phrase anodine, je disais, mais de toute façon, c'est pas comme si j'allais avoir un cancer à 35 ans. Il me dit, si. Je dis, comment ça, si? Est-ce qu'à l'hôpital, il y a des jeunes de 35 ans qui ont des cancers à cause de la cigarette? Puisque moi, j'en connais pas personnellement. On n'en entend pas forcément parler, mais il dit, si, il y a des gens à 35 ans, c'est des gros fumeurs, ils ont des cancers.
Et en plus, à ce moment-là, moi, j'étais en cardio, et j'avais quoi? J'avais 27 ans, et j'avais un patient qui avait 2 ans de plus que moi, je crois, et qui a fait un infarctus du myocarde, mais sévère, et le patient, il était en surpoids, mais il n'était pas du tout obèse, et il était gros fumeur, il fumait 2 paquets de clopes par jour, et il avait une dyslipidémie, donc un peu trop de cholestérol, mais parce qu'il était en surpoids et qu'il faisait pas de sport. Et en fait, et moi ça m'avait choqué parce que j'avais fait son admission, il était passé sur la table de coraux, et en fait ce patient, il avait, pour moi, il avait mon âge en fait.
Et donc moi, quand elle vient me raconter des histoires comme ça, je me dis
je vais peut-être arrêter. Mais là encore, c'est le faire peur en fait. Et toi, t'avais déjà pris ta décision à ce moment-là. C'est pas parce que je te faisais peur en fait. C'était plus.
Mais non, mais ça devenait de plus en plus urgent, plus réel. C'est pas parce que j'avais. Parce que ça, la décision d'arrêter de fumer, je l'avais prise 5 ans avant d'avoir arrêté. Donc 5 ans avant, je savais déjà que je voulais arrêter. Je commençais à le sentir. Et plus j'avançais, j'étais certain que je voulais arrêter. Par contre, je ne savais pas par où m'y prendre. Et plus j'avançais, plus je pensais que ça allait être plus compliqué. Mais au final, non.
Mmh. Mais c'est... Puis il faut le temps que ça mature, finalement, si ces idées.
Ouais, parce que le livre d'Alain Carr, je l'ai eu. C'était, je me souviens, c'était une collègue qui me l'avait envoyé en PDF. Donc, je lis, je pense, 10 pages. Et là, je me dis, ah, ce mec-là, il me parle. Et il dit dans son livre, 75% des gens qui lisent ce bouquin arrêtent de fumer. Et là, j'étais en mode, je suis pas prêt d'arrêter en ce moment, j'ai pas envie de faire partie des 25%, donc j'ai arrêté la lecture et je l'ai gardé, bah, du coup, 5 ans, quoi, avant de le lire, au final.
Ouais. Mais, et du coup, même moi, qui est accompagnée, entre guillemets, parce que je considère pas ça avoir vraiment accompagné Simon, mais quand t'as arrêté, même moi, qui était pourtant médecin, et j'avais encore des préjugés, et je m'étais dit, mon Dieu, dans quoi on s'est lancé, ça va être l'enfer. Et en fait, Simo a géré son truc, mais moi, je ne m'en suis même pas rendu compte. Ça a été, tu t'étais auto-convaincu que ça allait être facile, et ça a été incroyablement facile. Ah oui, tu n'as pas été plus irritable, tu n'as pas été plus chiant, tu n'as rien
final,
en fait.
Moi, c'est bien plus tard que j'ai compris la démarche que j'ai suivie sur tout ce qui est changement de comportement. Et effectivement, le déclic, pardon, ça a été le bouquin. Le déclic, c'était vraiment quand je suis sorti de ce café en ayant lu le bouquin comme ça, dans ma tête, c'était fait. Dans ma tête, je suis rentré dans le café avec plein de doutes. Je suis sorti, j'étais vraiment dans ce que tu disais. J'étais dans, non, ça va être positif. C'est un truc cool que je suis en train de faire. C'est vraiment ça qu'a réussi à me faire comprendre le bouquin. C'est, non, ça va être un truc cool. Je pensais vraiment qu'au truc positif, j'imaginais vraiment la vie sans cigarette. Et c'était beaucoup, beaucoup plus simple que ce que je pensais, que j'avais imaginé. Genre, j'en faisais des films pendant des années, mais au final, ça n'avait rien à voir, l'expérience n'avait rien à voir avec ça.
Vous racontez exactement la même chose tous les deux. Et du coup, il y avait une dernière chose, tu parlais de l'accompagnement. Pareil, on parle tout le temps de l'accompagnement depuis le début. Toi, tu dis deux séances, tu les revois à distance, comment ça se passe?
Et tu sais qu'ils ont arrêté ou...
Ouais, tu le sais déjà qu'ils ont arrêté?
Eh bien, quand je dis deux séances, c'est que sur la première, ils ont arrêté. La deuxième, on va consolider le travail qu'on a fait, ouais.
Ah ouais?
Ouais, ouais, donc ça peut être ça. Après, si je vois qu'ils ont refumé encore quelques cigarettes, déjà, je reviens toujours sur le sens, sur le pourquoi ils le font. Est-ce qu'ils ont vraiment toujours envie d'arrêter de fumer ou pas?
Et les séances, elles sont espacées de combien de temps?
Je laisse 15 jours, 3 semaines en général entre chaque séance. Alors, reste le temps de bien tester et de regarder.
Comme Ida.
Ouais. Et puis après, sur la deuxième séance, sur la consolidation, sur... quelquefois ils peuvent me dire, c'est ça qui est intéressant, c'est voir quand est-ce qu'ils ont craqué, quand est-ce que ça a été dur pour eux, etc. Donc là, c'est vraiment s'adapter à la personne, mais l'idée souvent, c'est de pouvoir un petit peu travailler sur toutes les associations d'idées qui restent encore liées à la cigarette, avec plus un travail hypnotique, justement, travailler sur ces parties qui peuvent pousser à fumer, celles qui veulent pousser à arrêter, etc. Trouver des nouvelles manières de fonctionner inconsciente pour finalement nous apporter tout ce que la cigarette nous apporte, mais de manière peut-être plus saine, plus juste, plus appropriée. Et donc voilà, c'est là-dessus en général que je vais consolider ou modifier, puis en fonction, je les revois ou pas, je leur propose de revenir ou pas. Et puis voilà quoi.
Je crois que j'ai une patiente pour toi, madame. c'est une petite patiente qui est adorable. Ouais. Et on en a pas mal parlé.
Du coup, est-ce qu'en tant que médecin, tu peux adresser des patients à Sébastien, par exemple?
Ouais, parce alors bah, c'est pas. Oui, alors légalement, je peux bien adresser où je veux. En soi, hein, je peux leur dire d'aller au hammam si je veux. C'est pas... Mais non, oui, en soi, on peut. Moi, ce que je dis souvent aux patients, souvent les patients posent la question de l'hypnose et je leur dis que oui, moi, je suis.
Toi, en tant que médecin,
fait, on a le droit d'avoir notre avis quand même.
Oui,
hein.
Je te pose la question, justement, ton avis.
C'est pas pris en charge par la sécurité sociale, certes, donc c'est des frais quand même qui restent conséquents et que certains patients peuvent effectivement pas se permettre, mais...
Il y a pas mal de mutuelles maintenant qui commencent à prendre en charge une partie ou la totalité, et notamment aussi pour le sevrage tabagique. Moi, souvent, ce que je leur dis, c'est s'il faut, demander à votre mutuelle et on peut envoyer des factures et puis ça peut rembourser une partie. Ou
Okay. Bref, bonne remarque, ça. Effectivement, j'y pensais.
Tu peux le dire à tes patients.
Oui, c'est vrai. Et du coup, souvent, ils me posent la question et moi, je leur dis qu'il n'y a pas de souci sur l'hypnose, qu'ils peuvent essayer, qu'il faut tout essayer de toute manière et que ça peut pas être délétère, ça peut être que bon, donc c'est que du bénéfique en fait, donc pourquoi ne pas essayer, par contre sur recommandation. Et donc moi je leur dis vraiment, allez voir quelqu'un qui vous a été recommandé. Donc moi, c'est vrai qu'avec Ida, on a quelques noms de personnes qu'on recommande, et du coup, je t'ai déjà adressé des patients aussi, mais oui, effectivement, moi, je peux complètement adresser, okay. Mais du coup, tu m'as coupé, j'ai perdu le fil. Je ne sais plus de quoi je parlais.
Non, mais du coup,
parlais d'une patiente,
Madame
justement.
Madame T, tout à fait, alors si Madame T nous écoute. Non, c'est une petite patiente, on a pas mal parlé du tabac, et en fait...
Petite de quel âge?
Petite de... Oh. Elle est toute mignonne, elle doit avoir elle a plus de 50 ans, je pense. et du coup, on a beaucoup parlé, pareil, prise de conscience sur l'émotion, en fait. Et moi, ce qu'on disait, c'est qu'en fait, je leur fais faire les deux tests. On parle un petit peu, la première séance, donc moi, c'est des consultations de 20 minutes. Je leur demande de venir en consultation dédiée pour juste le sevrage. Et donc, je leur pose les questions en rapport au tabac, nanana. Et je leur fais faire deux tests pour distinguer addiction physique, addiction psychique. Donc, je leur fais faire, et je leur imprime, et je leur fais faire le test de Fagerstrom, le test de Horn. Ensuite, on essaye avec le test de Horn de bien comprendre. Moi, je leur dis que le Fagerstrom, je le prends en charge, c'est mon job. L'addiction physique, je m'en occupe. Je vais faire le job pour eux avec les substituts. Je leur explique comment ça fonctionne, mais je m'en occupe. Et après, je leur dis que le test de Horn, donc l'addiction psychique, c'est à eux de la travailler. Et c'est là où je te rejoins, que tu disais tout à l'heure, c'est 50-50. En fait, que toi, tu fais 50% avec eux, mais qu'il y a 50%, c'est à eux, c'est de l'actif, en fait. Tu ne peux pas le faire en passif. Et moi, je leur dis exactement la même chose. Et du coup, donc on a fait, elle a calculé son petit score, puis elle a vu sur quel point elle était plus élevée, donc en gestion de l'anxiété, etc. Et en fait, après, je lui dis, écoutez, à chaque fois que vous allumez une cigarette, essayez de réfléchir à l'émotion, à la situation, à pourquoi. Et donc, cette patiente, elle est adorable. En sortant, elle est allée chez Gilbert et Joseph, elle s'est acheté un petit carnet, et à chaque fois, littéralement, chaque fois qu'elle s'allume une clope, elle me note l'horaire, elle me note la situation en une phrase, et elle me note comment elle se sentait. Donc, 2-3 semaines après, elle est revenue avec son petit carnet, donc elle continue de fumer, hein. Je lui ai dit, pour l'instant, vous continuez de fumer ça. Elle est revenue avec son petit carnet qu'elle m'a donné très fièrement. Et je me suis retrouvée très très bête avec son petit carnet. Et je lui dis, c'est très très bien, mais le travail, c'est à vous de le faire maintenant. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et du coup, en fait, elle a fait le travail, mais elle attendait. Et du coup, on a essayé de travailler. Je lui ai expliqué que moi, j'étais très embêtée et que c'était très très bien. La démarche était excellente, mais que j'étais quand même embêtée. Que j'avais pas l'habitude de ça, du moins. Et du coup, c'était assez marrant parce qu'elle avait fait la moitié du travail, mais... Moitié passif, moitié actif quand même, parce qu'elle avait réfléchi au truc, mais elle n'avait pas encore mis en... Bon, alors après, depuis, ceci dit, quand même, ça c'était il y a un mois, elle est dans une démarche de réduction. Donc pareil, je lui ai expliqué que diminuer, à mon sens, c'était pas bon, mais elle intellectualise ses cigarettes maintenant. Elle réfléchit vraiment et elle a réussi à en enlever dès qu'il pour elle n'avait pas de sens, en fait. Donc, elle reste dans une démarche qui je pense, est assez positive, même si, effectivement, elle est dans la diminution, alors que j'ai toujours, encore une fois, tendance à leur dire qu'il faut arrêter d'un coup, que l'arrêt, c'est la diminution. Mais elle est vraiment pas dans une frustration, en fait. Elle essaye de comprendre pourquoi. Du coup, je reste convaincue
qu'elle... Moi, j'ai passé des années comme ça, en fait, où je diminuais, j'arrivais jamais à arrêter. Je diminuais.
Tu n'avais pas le petit carnet de Madame T.
Mais je l'ai noté, mes cigarettes, et je les comptais. Ouais, je comptais mes cigarettes de la journée. Et genre, limite, il y avait des phases où genre, je faisais beaucoup de sport, limite tous les jours, parce que j'étais certain que je sortais du travail, j'allais faire mon sport, et je rentrais. Bah, du coup, la soirée, je ne fumais pas. Et donc, je me forçais à faire du sport. Je comptais mes pauses, je comptais mes cigarettes, et j'ai fait ça pendant des années, en fait. Mais voilà. Peut-être qu'elle arrêtera un jour.
Mais oui, j'ai confiance en vous, Madame T. et du coup, juste pour revenir à ce que moi je disais, le Horn et le Fagerstrom, et le Fagerstrom, du coup, moi et Ida aussi, la semaine dernière, nous, on prescrit beaucoup les substituts nicotiniques. Okay. Toi, les patients, quand ils viennent te voir, ils ont des substituts, ils n'en ont pas, tu leur conseilles d'en prendre, tu fais comme Alan Carr, tu n'en veux pas,
Moi, je suis plutôt à dire qu'ils n'en ont pas besoin. Après, c'est que je ne connais pas non plus super bien, c'est pour ça qu'on a discuté un petit peu au téléphone là-dessus. Mais oui, je leur dis plutôt de ne pas en prendre. Que pour moi, j'ai cette image, c'est ce que je disais, que la nicotine, ça reste entre 48 et 72 heures dans le sang. Et que ce n'est pas une drogue, on est dépendant. La nicotine, c'est une drogue, on a une accoutumance. Pour moi, je faisais cette différence-là. Et je partais plutôt du principe que ce qui nous pousse à fumer, c'est toutes les associations d'idées qui sont liées à la cigarette. Et c'est là-dessus que je pense que l'hypnose est intéressante, parce qu'on va travailler sur ces associations d'idées pour aider les gens à en terminer une bonne fois pour toutes. Et voilà, après, je ne doute pas que...
Alors, après, la dépendance dans la cigarette, elle est réelle. Là, pour le coup, enfin, je pense que c'est quand même quelque chose... Il y a une vraie dépendance physique, alors qui, certes, en termes de demi-vie, etc., dans le sang, elle va être active très peu longtemps, en fait. Hein, parce qu'effectivement, trois jours après, on n'a absolument plus de nicotine. Par contre, le circuit neuronal de l'addiction, lui, est toujours là. Et pour le coup, il y a des petits tableaux qui montrent un petit peu en termes de toxicité, d'intensité et de dépendance. Par exemple avec le GHB, le crack, la meth, enfin toutes les drogues, le cannabis ici,
le on sucre. Peut
mettre le sucre, on peut mettre le café aussi, hein, on peut mettre un peu tout, on peut mettre tout dans ce de, voilà et voir un petit peu. Et pour le coup, par exemple par rapport au cannabis, le tabac est largement plus dépendant, enfin crée largement plus de dépendance. Après, en fait, en termes d'intensité, on est très très faible. Forcément, si on prend du GHB. L'intensité est très importante parce que, par contre, sur le GHB, il y a très peu de dépendance. Mais sur la dépendance, alors l'accoutumance à dépendance, enfin, toi, je t'ai dit que c'était la même chose. Moi, je ne le distingue pas du tout avec les patients, en fait. Mais l'accoutumance, c'est juste le fait que tu en as de plus en plus besoin. Enfin, tu vas t'habituer. L'accoutumance, c'est l'habitude, en fait. Donc, tu t'habitues et tu vas avoir besoin d'augmenter ta dose pour avoir le même effet. La dépendance, c'est simplement qu'en fait, tu deviens dépendant, tu en as besoin, tu ne peux pas l'arrêter d'un coup. Et du coup, il y a quand même une petite différence entre les deux, mais qui, dans le langage courant, est un petit peu passée, j'ai l'impression. Je ne travaille pas trop là-dessus, c'est vrai, moi, avec mes patients, mais du coup, la dépendance à la nicotine, elle est réelle. Physiquement, elle existe et elle est importante. Et...
Bah, pour moi, du coup, là, je te rejoins complètement dessus, mais moi, là où ça a été bénéfique pour moi, les substituts, au-delà juste de la nicotine, c'est juste ça m'a amené à distinguer par moi-même, faire la différence entre la dépendance physique et psychologique. Donc en fait, déjà en mettant le patch, ça me rassurait. Donc c'était déjà dans ma tête, j'étais en mode, ok, bon là j'ai mon patch. Et je m'étais rendu compte...
Il peut rien m'arriver,
j'ai mes chewing-gums, je suis armé. Ok, si j'ai des grosses envies, au moins ça va passer. Et les patchs, je crois que je les gardais une semaine, 10-15 jours. Et en fait, je m'étais juste rendu compte un jour, parce que j'en avais de 24 heures, et je m'étais rendu compte un jour à 17 heures que ça me grattait. Et je me suis dit, ah merde, mais en fait, j'ai pas changé le patch d'hier. Et là, je me suis dit, en fait, j'avais un truc qui sert à rien, mais ça me rassurait quand même. Et du coup, j'ai arrêté d'un coup. Donc, ça n'a pas duré hyper longtemps. Par contre, les chewing-gums, effectivement... quand j'avais la grosse envie, du coup, je prenais un shot de nicotine et ça calmait direct. Et du coup, j'ai combiné les deux et je l'ai gardé même bien après pour me rassurer. Donc, en vrai, au début, j'ai fait la séparation. Au bout d'un moment, je me rendais compte que, en fait, mon corps a juste besoin de nicotine. Je vais prendre ma gomme et c'est bon. Mais du coup, ça a joué un rôle déjà par rapport aux besoins, à la dépendance, et derrière, à côté, ça me rassurait parce que je me disais, au pire, ça va passer. Donc,
Et là, c'est là où moi, c'est comme ça, en fait, que j'arrive à accompagner les patients, du moins en tant que médecin, parce qu'il y a aussi le côté où les gens, ils ont besoin un petit peu, on vient chez le médecin, on a besoin de sortir avec son ordonnance aussi, mais et moi, je leur dis vraiment, qu'il y a des études qui ont montré des effets énormes sur le fait que l'accompagnement est très important et que les deux substituts, donc les patchs et les gommes,
combiner les deux, du coup.
Combiner les deux, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et en fait, moi, je leur dis, ça vous laisse l'esprit libre pour travailler sur l'addiction psychique et l'addiction physique, on va la faire diminuer avec le temps. Alors que pour le coup, effectivement, je la fais diminuer avec le temps. On diminue les patchs, on diminue le nombre de gommes par jour progressivement par palier. Alors que pour le coup, les cigarettes, ça ne fonctionne pas. Mais parce que c'est l'addiction psychique qui rentre en jeu.
Ouais.
Et moi, j'essaye vraiment de leur faire prendre cette conscience-là aussi.
Ça peut être complémentaire, finalement.
Ouais. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de travailler. Mais parce que aussi, moi, je peux les prescrire et qu'on nous a appris à faire comme ça, en fait. Hein.
Ouais.
C'est des habitudes de prescription, probablement, qui rentrent en jeu aussi.
C'est super intéressant d'avoir ton avis, carrément.
Et du coup, donc, les patients qui viennent te voir, ils ont déjà essayé avant l'hypnose ou les patchs ou...
Alors, souvent, ils ont essayé les patchs. Souvent, ils ont essayé la cigarette électronique de plus en plus. J'ai commencé à faire des arrêts de cigarette électronique.
Ah, super.
Des gens qui se tombaient un peu accro à ça.
Mais ils étaient fumeurs avant ou...
Ouais, il y en a qui étaient fumeurs avant, ouais. Ils ont essayé pas mal de méthodes, ouais. Il y en a qui ont essayé la liqueur, il y en a qui ont... Et ouais, du coup, ils ont essayé déjà pas mal de choses, ouais. C'est pour ça que moi, je les invite à du coup...
Ouais. Et t'en as eu des cigarettes qui ont arrêté la cigarette et qui sont passées sur la cigarette électronique sans nicotine, mais pour, à cause de l'habitude du geste. Ça, c'est, parce que moi, c'est quelque chose, j'en ai plein. Et alors ça, c'est tellement difficile.
Ouais.
Parce qu'on a du recul, du coup, sur la cigarette électronique. Ouais, c'est tout un débat, en fait.
C'est ça, on ne sait pas trop encore ce que ça donne. Hein, pas trop de recul. Mais en tout cas, oui, j'en ai qui sont passés à la cigarette électronique, mais que ça n'a pas forcément marché, et puis qui refumaient des clopes en même temps. Du coup,
moi, ça n'a pas marché du tout. J'avais essayé cigarette électronique.
Ouais, ça, c'est très personnel, je pense.
Ouais.
Donc voilà. Après, non, j'ai eu deux personnes. J'ai pas eu grand monde hein, pour l'arrêt de la cigarette électronique. Et voilà. Ça fonctionne un peu de la même manière pour moi au final, parce qu'on peut être un peu addictif à tout. Hein, donc,
Si on travaille sur les comportements. On a reçu un podcast justement, un petit message d'un auditeur. Est-ce qu'on peut te le faire écouter et avoir ton avis ?
Salut Amandine. Bon, pour moi, j'ai quand même deux questions qui me reviennent souvent à l'esprit. La première, c'est la place de la cigarette dans nos interactions sociales. On entend toujours que la cigarette, c'est sociable. Et c'est vrai. D'ailleurs, j'avais un chef qui me disait que sans les pauses clopes qu'il faisait avec son client fumeur à l'époque, il ne serait jamais arrivé à closer plus de deals. D'ailleurs, je le prends depuis mon expérience personnelle. J'ai tendance à parler avec les gens plus facilement quand je suis en pause café dans un bar ou sur une terrasse. Et ça, je pense que sans la cigarette, j'aurais peut-être du mal à aborder un peu les gens. Ça, c'est le premier point.
On est sur la première question.
Ok. Je pense que c'est vrai que la cigarette, en fait, ça peut aider sur plein de choses. Souvent, quand on est avec d'autres fumeurs. Alors, je me souviens plus, sa question, c'est en gros, est-ce que la cigarette, c'est comment...
Comment, par exemple ?
Du coup, lui, il est dans une démarche de se demander, au final, c'est un côté positif que m'apporte la cigarette. Mmh. Et c'est hyper important pour moi, comment je fais dans ce cas-là?
Moi,
personnellement, j'ai envie de dire, ça m'est arrivé, j'étais dans la même situation, faut pas se le cacher, faire des contacts quand on fume en entreprise, c'est beaucoup plus simple. J'ai connu beaucoup de personnes avec les pauses cigarettes, parce que dans une grande entreprise, on ne connaît pas tout le monde, mais quand on revoit les mêmes personnes à peu près au même moment de la journée, on demande un feu, on engage la conversation, c'est plus simple, même dans des bars, effectivement. Moi, en entreprise, ce que je faisais, c'est que j'ai pas arrêté mes pauses cigarettes, en fait. Du coup, je descendais avec les collègues fumeurs et je prenais un café. Et parce que c'était un moment que j'aimais quand même, donc je descendais quand même, je prenais le café. Et ça changeait rien, en fait, dans mes rapports de ce côté-là. Après, d'autres contextes, je pense que, pareil, je continuais à sortir avec les fumeurs et limite, je pense pas que dans un bar, on rencontre plus de gens. En vrai, ça, j'en sais rien. En fait, en tout cas, c'est pas quelque chose qui me manque aujourd'hui. Dans le contexte du travail, je pense que c'est facilement... C'est facilement compensable en prenant quand même des pauses, en descendant prendre l'air, marcher avec un café. Dans les autres contextes, je pense que c'est pas quelque chose que...
Vas-y.
Dans
ce que j'entendais, finalement, c'est que c'est vrai qu'il y a cet effet de synchronisation quand on fume et quand on discute avec d'autres fumeurs. C'est-à-dire que dans nos cercles sociaux, on peut avoir plutôt tendance à se ressembler un peu les uns les autres dans notre manière de penser, de s'habiller, d'être, etc. Et du coup, même c'est ce qu'on peut faire en séance pour créer la synchronisation, c'est de se tenir un petit peu de la même manière, employer le même vocabulaire. C'est ce qu'on voit un petit peu en PNL, la programmation neurolinguistique. C'est de s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Et le fait de fumer une clope et d'être à côté de quelqu'un qui fume une cigarette, on reproduit la même chose, mais du coup, on sent, finalement, un peu pareil, qu'on sent qu'on se rapproche sur quelque chose, ce qui facilite la communication, facilite des deals, facilite de rentrer en contact avec les gens, etc. Et du coup, je crois que c'est vrai que ça peut apporter des choses là-dessus. Mais après, c'est hyper intéressant de pouvoir s'apercevoir qu'en fait, même si on ne fume pas, on peut créer tout ça. Oui. Mais voilà, et quelquefois, oui, c'est dur pour certaines personnes d'arrêter de fumer parce qu'ils ne vont plus avoir cette sensation d'être moins synchronisés avec les autres, etc. Et c'est, d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de jeunes qui commencent à fumer dans les groupes, parce qu'il y en a qui fument, et eux, ils sont là, c'est les seuls à ne pas fumer, ils se sentent un peu exclus d'une certaine manière, et la manière de pouvoir commencer à le faire, c'est de commencer à fumer aussi. Et petit à petit, on s'enferme là-dedans. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question.
Si, si, mais oui, bien sûr, c'est toutes les normes sociales, en fait, l'intégration des normes sociales.
Ouais.
Et du coup, donc, je crois qu'on avait une deuxième question. Alors, si j'arrive à la mettre.
La deuxième question, c'est les habitudes qu'on a, et notamment les habitudes qui sont très, très, très ancrées dans notre quotidien. Donc, la cigarette du matin. Moi, je sais que le matin, en sortant de chez moi, bah, la première cigarette avant d'arriver au boulot, ça me permet vraiment de me concentrer, de me retrouver avec moi-même et d'être bien focus pour bien démarrer la journée. Et je sais que quand j'ai fait ma première tentative d'arrêter la cigarette, bah, j'avais vraiment du mal, en fait, le matin. J'avais commencé à faire de la méditation, mais ce n'était pas très pratique et je n'étais pas très régulier. Qu'aujourd'hui, bah, est-ce qu'il y a des vraies alternatives à ce genre de réflexe et puis, si on a, bah, je suis preneur. En tout cas, merci et puis à très bientôt.
Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est des associations d'idées dont il nous parle. C'est-à-dire qu'on associe le fait de faire sa pause du matin ou de après son café, prendre sa cigarette pour commencer à démarrer sa journée. C'est peut-être des marqueurs de temps aussi dans la journée. Je donne pas de technique forcément pour ce genre de choses. C'est plutôt des choses que je vais travailler sous hypnose, du coup, pour aller justement les modifier, comme je disais tout à l'heure, les associations d'idées, les changements, etc. Donc ça, c'est plutôt un travail hypnotique que je vais faire à un niveau inconscient, mais... Je n'aurais pas forcément de technique ou de conseils à donner à ce niveau-là. C'est vrai que ça peut être compliqué, mais après, l'idée, c'est de pouvoir, ce que je dis en hypnose, quand je fais ça, c'est de pouvoir remplacer par des choses qui sont plutôt positives que négatives.
Mais... Donc, un conseil à cet auditeur, ce serait d'aller voir Sébastien.
Pourquoi pas?
Bah, moi, là-dessus, limite, pareil, je m'identifie complètement dedans. C'est la petite cigarette du matin pour démarrer la journée, pour remettre en place ses idées. Ben moi, aujourd'hui, j'ai un rituel qui est le café le matin dans mon petit coin. Je prends ma tasse de café dans mon coin et je me pose tout seul et je réfléchis. Je mets en place toutes mes idées. En fait, moi, là-dessus, c'est avant d'en arriver à ancrer cette habitude de fumer une cigarette tous les matins pour... placer ses idées, c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Cette habitude là, bah en fait, il a mis beaucoup de temps avant de l'ancrer dans son comportement et faire l'association. De la même manière que quand il dit j'ai essayé de la méditation, bah la méditation, ça demande beaucoup de travail, de la discipline. C'est pas évident au début, c'est pas en une semaine qu'on va être capable de remplacer une habitude comme ça qu'il a peut-être dû développer pendant des années. Ça va prendre peut-être 2 mois, 3 mois avec beaucoup de discipline, ça va pas être évident au début, mais comme toute habitude, ancrer de nouvelles habitudes, ça se fait pas du jour au lendemain, on va pas juste remplacer une habitude par une autre, comme ça, en un claquement de doigts. C'est juste, ça demande du temps. Moi, j'ai mis du temps, mais là, franchement, j'apprécie, je pense, ouais, j'apprécie plus un café le matin. Mon premier café du matin, bah, c'est le moment où je réfléchis, où je médite, où je me concentre. J'ai pas besoin de la cigarette pour effectivement trouver cet état de concentration et de calme.
Ouais, ouais non, c'est très juste, ouais. Et puis ben, après, on reste sur toute la notion d'avoir envie, de remettre du sens sur le pourquoi. Et c'est ce qui fait que je pense que plus ça aura de sens, plus on dit que ça va être simple et facile, plus ça aura tendance à se passer simplement. J'imagine que se dire, ah putain, sans ma cigarette le matin, ça va être compliqué. Et du coup, les gens en train de se conditionner à ce que ça va être compliqué. Et du coup, ils s'enferment dans ce cercle vicieux. Et te dire qu'en fait, on peut très bien profiter de son café le matin sans cigarette. Et te dire que c'est simple, c'est facile, peut-être ça va être encore mieux, etc. Donc c'est plutôt, c'est plutôt le genre de conseil, moi, que je donnerais.
Ok. Et du coup, on a une dernière question pour toi. On parlait la dernière fois des patients qui nous mettaient le plus en difficulté. Est-ce que toi, tu as des patients ou alors moi, typiquement, le sevrage tabagique, qui on le disait la dernière fois, avec la co-addiction au cannabis, j'ai toujours un peu de mal à la gérer. Donc moi, c'était un peu ça, la difficulté, on va dire.
Quand tu dis par rapport au cannabis, c'est des gens qui vont fumer des clopes et des joints.
Ouais.
Ok.
Et pas juste un joint.
Mais qui voudraient arrêter juste de fumer des cigarettes et continuer de fumer des joints. Alors, j'en ai pas mal aussi qui viennent aussi et quelquefois qui fument de manière récréative ou un peu plus que ça et qui me demandent est-ce que c'est possible de pouvoir arrêter juste la cigarette. Alors moi, je leur dis que je pense que c'est possible. À mon sens, les gens qui fument une cigarette et puis un joint, ils ne mettent pas la même intention derrière. Ils ne le font pas pour la même chose, il n'y a pas le même ressenti, etc. Donc, pour moi, je pense que c'est faisable. Après, c'est ce que je leur dis. Le problème, c'est que si maintenant, à chaque fois que vous n'avez pas de cigarette, vous allez vous rouler un joint et que vous mettez à fumer 10 joints par jour,
Autant garder la cigarette, voilà. quoi.
Et ça serait juste repousser le problème un peu plus loin.
Ouais.
Et l'idée, c'est de faire attention à ça. C'est ce que je dis dans les séances. Le but, c'est de pas... c'est de ne pas repousser le problème plus loin, pas compenser par la nourriture, c'est pas de compenser par autre chose, parce que c'est juste décaler un problème. C'est juste que ça se fasse simplement, etc.
Essayez la CBD.
Voilà. Très...
Ok. Et du coup, des patients qui te mettent en difficulté, toi
Et du coup, des patients qui mettent en difficulté, bah, je crois, c'est ceux qui le font quelquefois parce qu'ils se sentent un peu obligés de le faire. Quand on parlait des femmes enceintes, quelquefois, c'est plus compliqué de leur faire prendre conscience qu'il faut le faire pour elles. Du coup les amener à prendre conscience de ça, ou des gens quelquefois qui peuvent avoir des problèmes physiques, des maladies, qui se disent il faut que j'arrête de fumer parce que là j'ai une opération dans 2 semaines et que en fait ils le font juste parce qu'ils ont opération ou parce qu'ils ont un jeu d'or où il faut
Bah, c'est le type de patient avec qui je fais même pas forcément ce travail. Je leur dis écoutez, on le fera, mais en vue d'une chirurgie maintenant, en fait c'est quasiment dans tous les protocoles quasiment opératoires, il faut arrêter, c'est un impératif. 2 semaines avant, pas de cigarette, et tout le temps de la cicatrisation, pas de cigarette.
Juste après, ils reprennent.
Et du coup en fait ces patients là moi je leur dis ok, on est dans un impératif de temps qui est extérieur à vous. Le travail on le fera un moment parce qu'il va être important à faire, etc. Mais c'est des patients typiquement à qui moi je prescris beaucoup, quand il n'y a pas de contre-indication en tout cas, je prescris en fait le Champix, la varenicline pour arrêter, pour arrêter, on casse l'addiction. Et c'est des patients à qui je dis écoutez, au moins j'essaye d'expliquer qu'en fait y a quand même, ça va servir à quelque chose ce truc là, à leur montrer qu'ils peuvent très bien vivre sans cigarette et que c'est une addiction physique et que et ça généralement ils le comprennent bien. C'est des patients qui retombent dedans quand quand il y a cet impératif là de extérieur, complètement extérieur, et d'un impératif de date. Mais sinon bah, du coup je me suis encore perdue, je suis désolée.
Non mais pour les patients qui faisaient par rapport aux opérations,
ouais.
Et donc voilà, ouais, c'est plus compliqué, mais voilà, je pense que c'est les clients pour moi qui sont le plus compliqués à gérer. Et puis ben, c'est les amener à reprendre du sens en leur disant que c'est pour eux qu'ils le font,
ouais,
pas pour ça. Parce qu'après ils peuvent arrêter un jour, mais du coup sinon ce sera pas des méthodes qui vont être
oui, c'est complètement artificiel.
Ouais, ça leur permet déjà de savoir qu'ils sont capables d'arrêter 2 semaines. Parce que moi je savais pas si je pouvais arrêter 2 semaines.
Tu savais pas que tu pouvais vivre sans cigarette, quoi.
Ouais, c'est déjà... j'imaginais pas la vie sans cigarette, mais maintenant j'imagine pas la vie avec une cigarette, quoi.
Heureusement. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Merci beaucoup, Sébastien. Ouais,
merci beaucoup. C'était merci hyper enrichissant. On a appris énormément de trucs. C'est sympa.
Et bah super. Merci à vous. Et puis, peut-être une prochaine fois.
Bah, carrément.
Avec grand plaisir.
Grand plaisir.